Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord à toutes et à tous, voilà. Merci de votre présence. Donc on va commencer cette table ronde, comme celle que nous avons déjà commencé depuis un certain temps, et celles qui sont annoncées pour l'année. Donc vous avez le programme de la journée, et au verso, vous avez l'ensemble des tables rondes à venir, et également les journées d'automne, ce qui est un temps fort aussi, ça sera les sixièmes cette année. Et puis sur l'agenda, pour l'agenda plus complet, vous reportez sur le site emf.fr, et on organise aussi des visites un peu insolites d'entreprises, de chefs d'entreprise qui sont un peu surprenants. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, nous sommes ouverts à tout. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est les espaces naturels, les parcs naturels régionaux, les espaces naturels, la façon, mais aussi des espaces naturels en ville. Donc c'est ça le paradoxe. Ça peut être la ruralité et la ville à la fois. Donc je vais commencer par appeler M. Bertrand Lemartinel. Donc, qui est professeur de géographie, qui a été professeur de géographie, mais il le expliquera mieux que moi. Donc, je laisse s'installer pour introduire un peu le sujet, en fait. Et après, on appellera donc, dans l'ordre du passage, les gens à venir aussi se joindre à nous. Mais aussi dans la salle, évidemment, vous avez la parole à l'issue de chaque intervention. Si vous avez des demandes de précision, on les prendra. Puis ensuite, il y a un débat général, évidemment, qui s'instaurera. Donc... Monsieur Lemartinel, c'est à vous.
D'accord. Il me faut un micro, je crois, pour que ça puisse être enregistré. Donc, je vais me tenir. Oui. Alors, je vais vous parler de la nature ou de ce qui n'est pas la nature, justement, dans les parcs naturels. Évidemment, tout le monde connaît le début des origines des parcs naturels. Hein, c'est Yellowstone en 1872, avec des bases qui ne sont pas du tout forcément des bases scientifiques. D'abord, Yellowstone, c'était, on l'a vu comme un vestige du paradis terrestre, et vous pouvez penser que c'est quelque chose de vieilli, cette idée que restent des parcelles du paradis terrestre à la surface de la Terre, mais pas du tout. Il y a encore une assez forte tendance en matière de parcs naturels à les considérer comme des lieux qui témoignent de la puissance de Dieu sur Terre. Alors, la première idée, c'est celle-là. L'idée aussi, c'est évidemment de faire en sorte qu'on croit à la wilderness, c'est-à-dire à un espace pas peuplé d'hommes et qui, avant même que l'homme y soit installé, est issu de la création. C'est Yellowstone avec ses bisons, hein, tout le monde le connaît. Mais en fait, c'était des lieux peuplés. C'est pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde que les lieux n'étaient pas peuplés, et en réalité faire croire à la wilderness, c'est-à-dire à l'espace sauvage, à l'espace naturel, c'était une manière de mieux exclure les autochtones. En réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que la création des réserves indiennes, dans leur forme actuelle, est presque contemporaine de celle des parcs nationaux. Yellowstone est installé en 1872, et en réalité, pratiquement, les terres réclamées ont été, à partir de l'installation de Yellowstone, ont été réclamés pratiquement, on avait accordé large aux Indiens, ont été réclamés en 1874, c'est-à-dire pratiquement on a violé les terres Sioux, et le découpage définitif suit d'assez peu, en fin de compte, Yellowstone. Et le terrible de l'affaire, c'est que ces parcs dits naturels, eh bien, on en a sorti les hommes parce que s'ils étaient là, c'est qu'ils avaient leur part d'animalité. Et puisqu'ils avaient leur part d'animalité, il fallait les en sortir pour en faire des êtres humains et civilisés. Et ne croyez pas que c'est très ancien, puisque ce qu'on appelle les pensionnats autochtones au Canada n'ont disparu qu'en 1996. Hein, ça, c'est quelque chose, et Stephen Harper a dû s'excuser il y a très peu, et c'est pourtant Harper, a dû s'excuser il y a très peu de temps, je crois que c'est il y a 4-5 ans, sur la politique de déculturation qui a été menée, il faut le dire, grâce au parc naturel. Hein. Et cette dimension créationniste est encore très forte. Alors évidemment, tout le monde connaît les gorges du Colorado, hein, c'est un monument national qui a été établi en 1908, mais ne croyez pas que le créationnisme y est absent. Il y a une excursion de l'Union géologique américaine, l'USGS, qui a été pénétrée il y a très peu de temps par un gars qui s'appelle Steve Austin et qui est un membre d'un institut créationniste américain. Et il a fallu que les participants à l'excursion en question poussent pour certains des hurlements pour que l'utilisation au fond du parc naturel revienne un peu plus à la science. Également, alors vous me direz, c'est les États-Unis, c'est des ploucs incultes, des rednecks. Par exemple, alors je présente une photo du parc de Banff, hein, qui a été établi en 1885 au Canada, mais le texte que vous voyez là, c'est un texte sur une association créationniste française. Et vous voyez, la Bible dit que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden et a dit de le garder. La nature s'épanouit s'il le fait, et dès qu'on néglige l'environnement, c'est des environnementalistes, créationnistes et intégristes qui sont encore en France. Je vous avais la référence en bas, hein, c'est dans un site qui s'appelle le Musée créationniste. Alors, bon, c'est une dimension qu'on essaie de faire disparaître, bien sûr. Et on peut se demander si, de la création à la créativité, on n'a pas fait quelque chose d'utile en passant aux réserves intégrales pour la science. Est-ce que c'est le Pacific Rim, je le précise, à l'ouest du Canada, dans l'île de Vancouver. Alors, ces parcs à destination scientifique ont été établis très tôt. Plus tard, bien sûr, qu'à Yellowstone, mais très tôt, par exemple, le parc Denali, hein, en Alaska, a été établi en 1917, avant l'installation du chemin de fer qui traverse le Canada, l'Alaska d'Anchorage à Fairbanks. On a choisi pour ces espaces vierges, là, très probablement assez vierges, des lieux qui étaient peu accessibles. Et Denali, donc, a été choisi pour cela. Le Pacific Rim aussi, c'est-à-dire les rives du Pacifique, comme disent mes amis québécois, en Colombie-Britannique, a été installé en 1970, donc vous voyez, beaucoup plus tard. Et son but est aussi de créer des réserves intégrales à destination soit de préservation, soit d'études scientifiques. Vous en avez ici une carte et vous constatez qu'un des critères de choix de cette installation, de ce Pacific Rim, c'est évidemment qu'il n'y avait qu'une route qui aboutit à Tofino, c'est vraiment le bout du monde, et qu'à partir de Tofino, le seul moyen de se déplacer, c'est l'hydravion. Vous avez fait d'ailleurs la photo précédente à partir d'un hydravion, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on essaie de choisir des lieux qui sont écartés, à l'écart. Dans l'ensemble, peu praticable. D'ailleurs, ce qui éloigne de la vision, j'allais dire, je vais être très méchant, écolo-bobo du parc naturel, qui est une belle chose, etc., le parc de la rive pacifique est extrêmement peu praticable, parce qu'une forêt naturelle, c'est pas beau, il faut le dire, au sens pas beau, au sens esthétique du terme. Hein, il y a des troncs partout, ça sent le pourri, parce que les troncs pourrissent, évidemment, il y a des bestioles partout. C'est très intéressant scientifiquement, mais c'est très peu praticable. On oublie quand même que ce peu praticable ne veut pas dire impratiqué. Et en particulier, on redécouvre, il y a depuis peu de temps, que ces espaces n'étaient pas tout à fait vierges. Et par exemple, Tofino, on rappelle quand même que la région du Pacific Rim, en Colombie-Britannique, avait été habitée, on le dit depuis pratiquement que 2008. La House of Wimitsa, c'est le peuple qui était là installé, dans les peuples, les Premières Nations, eh bien, on s'est rappelé qu'elles existaient en 2008. Vous voyez, c'est tout récent. Hein, je ne dis pas que leur production... Alors, ils vendent aux touristes, ça a été de tomber d'un excès dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils vendent des pagaies décorées à la peinture que vous ne mettriez pas, peut-être pas dans votre salon. Mais enfin bon, ils essaient aussi de vivre, ces gens-là. En tout cas, ces espaces n'étaient pas tout à fait vierges non plus. Même dans des semi-déserts andins. Par exemple, ici, c'est le parc national des Cardones, hein, qui date de 1996. Et il faut savoir que malgré l'apparente désolation de l'endroit, il y a eu des enterrements, évidemment religieux, dans les religions andines, au sommet de la montagne, dont je ne prononce pas le nom, hein, c'est comme l'Eyjafjallajökull, c'est pas très facile, à pratiquement 7000 mètres. Donc cet espace qui vous semble vide, en réalité, il a été peuplé, et il est d'ailleurs pas très loin derrière l'endroit où j'ai fait la photo, il y a un village qui vit de l'élevage du lama et d'animaux comme ça. Donc ce sont des espaces qui ne sont jamais totalement vides. Et dire qu'il y a des réserves intégrales, alors là je vais me faire tuer par la personne que je connais et dont nous parlions tout à l'heure, puisqu'il s'agit de la compagne d'un ami à moi. Quand on parle de réserve biologique intégrale de Chizé, il faut aussi mettre la mesure de ce qu'est cette réserve biologique intégrale. Officiellement, le but est de faire des études qui sont centrées sur la compréhension de l'écologie des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Sauvage, je veux bien. Pourquoi ? Parce que sauvage, ça vient sylvatica, c'est du latin qui habite en forêt. Par contre, dans leur milieu naturel, j'ai quand même un certain nombre de doutes quand on regarde ce qu'est la photo aérienne de Chizé. La partie centrale est dans le cadre rouge, là. C'est une ancienne base de l'OTAN. Vous remarquez que la forêt est très monospécifique, hein, c'est-à-dire qu'elle a certainement été plantée. Elle est parcourue de rues, de routes, évidemment, de part en part. Et les animaux qui y vivent ont tout loisir, notamment les sangliers, d'aller manger les poubelles dans les villages qui sont à côté. Je vous dis sincèrement que les sangliers mangent les poubelles parce que chez moi, c'est le cas. Enfin, j'habite pas à Chizé, j'habite à Corbère, dans les Pyrénées-Orientales. L'été, qu'est-ce que font les sangliers ? Ils viennent boire dans les ruisseaux d'arrosage et manger les poubelles quand ils peuvent. Donc il y a une notion du sauvage, vous m'excusez, et d'environnement naturel qui est en vérité bien peu naturel. Alors il y a aussi une chose, c'est que ces perceptions différentes de la nature conduisent à des politiques de conservation extrêmement divergentes. Là, j'ai à chaque fois, c'est l'incendie de Yosemite en 2001. Bon, le principe aux États-Unis, jusqu'à une époque récente, c'était qu'on laissait faire. Résultat, par exemple, en Yosemite, l'incendie de Yosemite en 1988 a ravagé une part très importante du parc qui est en rouge. Hein, c'est une image aérienne, une image satellite qui a été travaillée, bien sûr, pour faire apparaître les zones carbonisées. Mais le laisser faire la nature au titre du fait qu'elle est simplement originaire, c'est la nature de Dieu en quelque sorte, n'est pas très, très facile. Parce que regardez l'image que j'ai prise en 2007, hein, on a quand même pratiquement 20 ans d'écart entre les deux images. Et voyez que la régénération forestière dans le parc de Yosemite est très difficile. Donc laisser faire la nature, c'est pas toujours très très simple. On peut dire ça a débarrassé des parasites, c'est très bien, oui, oui. Sauf que, on le verra, les parcs naturels n'ont pas uniquement une vocation de réserve scientifique pure. Et puis, si on ne gère pas la nature, il faut gérer les hommes. Hein. Le problème de l'emboîtement des échelles du national au local est parfois extraordinairement complexe. Par exemple, quand on est dans l'Utah, dans la Green River, on a un Flaming Gorge, c'est une rivière, c'est la Green River, qui est barrée par un équipement hydroélectrique. Eh bien, à ce parc naturel, il y a les règlements fédéraux, puisque c'est un parc naturel fédéral. Il y a deux États qui gèrent chacun un côté du parc, le Wyoming et l'Utah. Alors, il y a des lois différentes sur la circulation des bateaux, la pêche, l'alcool. La justice ne dépend pas du fédéral, pour une part. Elle dépend pas non plus des États. Elle dépend du comté. Aux États-Unis, c'est très fréquemment le cas. Et il y a une justice comtale qui applique les lois fédérales éventuellement et les lois d'État. Donc en réalité, c'est d'une extraordinaire complexité. Et la nature, là-dedans, n'a pas grand-chose à voir. Hein, elle est gérée d'une manière... Au point que, par exemple, si vous nagez d'un côté du barrage... si vous traversez le milieu, vous n'avez plus le droit de nager. Bon, rien ne vous indique hein, que on passe d'un côté à l'autre. Donc la gestion est quand même très compliquée. Au Canada, la vision est différente. La conservation est active et la créativité, elle est forte, puisqu'on a inventé, c'est au Canada qu'on a inventé tout un tas de moyens de gestion de l'espace dit naturel. En particulier, vous connaissez bien Stavion, hein, qui a eu de nombreuses versions. Eh bien, il a été fait pour lutter contre les incendies de forêt, contre les chenilles qui dévastent la forêt. On met des produits. Hein, de façon, parce qu'il y a beaucoup de lacs au Canada, de façon à ne pas laisser se faire toute seule la nature, comme on l'avait eu faire, par exemple, au niveau du parc des Grands Jardins au Québec, où la dévastation a été telle qu'on a regretté de laisser faire. Et puis, ce n'est pas seulement le cas de l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Hein. Partout, il y a autant de méthodes, de règlements que de pays, voire de provinces et de parcs. Vous avez un exemple, si vous cherchez sur Internet, vous avez un exemple du nombre de réglementations possibles pour un parc. C'est assez fabuleux pour des parcs dans des endroits différents. Donc, vous voyez, la nature, là-dedans, elle est beaucoup régie par ce que peuvent être les hommes. Hein. Alors, la gestion, à partir de là, est nécessairement ambiguë. comment faire vivre des parcs réputés naturels? Si vraiment on voulait qu'ils soient naturels, il faudrait qu'il y ait personne. Or, si il n'y a personne, il y a peu de chances que le joyeux contribuable accepte de payer pour des endroits où il n'y a personne. La solution, elle a été simple à la fin du 19e siècle. C'est, comme disait le fondateur, le président du Canadien Pacifique, en 1886, si nous ne pouvons pas exporter le paysage, nous importons les touristes. Et on a construit les grands chemins de fer canadiens, le Canadien Pacifique en particulier, mais aussi le Canadien National, en partie, d'abord pour traverser le continent d'une mer à l'autre, c'est la devise du Canada, mais aussi en partie pour amener des touristes. Alors évidemment, il y a des paysages absolument somptueux, comme le lac Moraine, dans le parc naturel et national de Banff, qui a été établi en 1885. Mais l'isolement de ces parcs au début a fait que ça a été aussi des lieux de confinement et d'isolement au sens politique du terme. Par exemple, dans le parc national de Banff, en 1915, on a confiné tous les Allemands qui étaient au Canada, de nationalité allemande. Alors vous me direz, c'est des drôles de touristes. Vous me direz, oui, mais c'est au Canada, c'est aux États-Unis. Et encore une fois, c'est pas en France. En France, le premier parc qu'on peut appeler comme ça, même s'il n'a pas son nom, c'est la Bérarde en 1930. Mais où est-ce qu'on a placé les jeunes des chantiers de jeunesse? Dans les zones forestières. Quand les harkis sont arrivés en France, qu'est-ce qu'on a créé? Des hameaux de forestage. Et qu'est-ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils étaient, ces hameaux de forestage? Dans les parcs naturels régionaux qu'on a installés. Donc ne croyez pas, parce que c'est très loin, que ça n'existe pas. Chez nous aussi, on a su faire ce genre de choses. Et puis, le tourisme à tout va, ne croyez pas, on est dans un parc naturel. C'est le champ de glace Columbia, dans le parc de Jasper, qui a été installé en 1930. C'est la photo en 2008. On peut aller sur le glacier avec ces espèces d'énormes engins à 6 roues, là, ou 8 roues, ou 10 roues, je ne sais plus. On se croirait dans un hall d'aéroport. C'est l'embarquement pour la promenade sur le glacier. Donc, je vous jure, c'est une photo qui a été prise en 2008. Ça doit être la même chose en 2017. Il n'y a pas de changement particulier. Et il y a des rangs. Vous avez votre carte d'embarquement. Vous montez à bord du bazar. C'est comme l'avion. Le parc national des Arches, créé en 1929, renouvelé en 1971, en 2007, c'est une boutique de tout. On vend tout, et notamment des fossiles. Qui devrait, à mon sens, de géographe, éventuellement d'anciens membres de la Société géologique de France, être protégé. Et puis, il y a des conflits d'usage. Ça, chez moi, dans les parcs naturels régionales des Pyrénées catalanes, ça a été... J'ai hélas encadré des maîtrises, à l'époque ça s'appelait comme ça, universitaires, qui avaient pour fonction d'aider à la création du parc. J'ai fini par m'arracher les cheveux, il m'en reste quand même. Tellement les pauvres étudiants qui étaient confrontés à ce genre de sujet se trouvaient en grande difficulté vis-à-vis des gens, des politiques, des particuliers. Ils se faisaient arracher la tête. Soit au nom du grand tétra, soit au nom du ski, soit au nom... Le tétra, exemple, dans les Vosges aussi, on en fait un emblème de la nature. Ouais, sauf que le tétra, pour vivre, il a besoin de prairies. Certes, il vit en forêt, mais il a besoin de prairies. Si vous faites que de la nature, dans les Vosges ou dans les Pyrénées catalanes, il y a de la forêt. Elle remonte d'ailleurs actuellement. Et le tétra, il disparaît. Donc la nature, là-dedans, vous m'excuserez du peu. Alors évidemment, il y a une créativité radicale. C'est de dire, oh, dans ce cas, il ne faut pas d'hommes du tout. On est au Rwanda, ici, dans le parc des Monts Nyungwe, au Rwanda. Il a été créé en 2005, mais la photo a été prise en 2015. C'est simple. On a pris l'armée, on a viré tout le monde. Tous les paysans, tous les gens qui y étaient. Et alors, c'est un peu ambigu parce que c'est très près du lac Kivu. Et le lac Kivu, c'est évidemment une zone militaire. Moi, j'ai été en visite officielle, donc on m'a accompagné. Il y avait des gars en civil, je vous assure. Je n'avais pas besoin de se connaître leur profession, ils étaient militaires. On a été accompagnés pour la sécurité, etc. On a visité. En fait, on a découvert qu'ils avaient absolument viré tout le monde. Virer tout le monde dans un petit pays qui est déjà surchargé d'hommes, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on en vient à cultiver tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes même pas géographe, vous remarquez que c'est un volcan. Hop, pardon. C'est un volcan qui a été cultivé. Et évidemment, avec une pression foncière pareille, il ne faut pas s'étonner de temps en temps qu'il y ait des guerres civiles épouvantables. Alors, conclusion, vous voyez que j'ai tenu mon temps. En conclusion, je suis très, apparemment très pessimiste. Très pessimiste en disant d'abord que la nature, c'est une invention ou une réinvention de l'homme dans ces fameux parcs naturels. Je trouve que cette image est assez extraordinaire. C'est en Guadeloupe. Le parc naturel national de la Guadeloupe, il est installé sur la commune en partie de vieux habitants. Les vieux habitants qui c'étaient les Caribes que les colons français et leurs esclaves noirs ont éliminés sans pitié quand ils sont arrivés au XVIe et surtout XVIIe siècle. Donc, les parcs naturels ne sont pas naturels, ils ont souvent été habités peu, moyennement ou beaucoup, mais ils étaient habités. Alors, vous me direz très pessimiste. Allez, je vais quand même finir sur la note optimiste, pour vous faire plaisir et faire plaisir, pas seulement. C'est qu'en fait, cette nature réinventée, c'est pas de la nature, c'est pas vrai, c'est pas la nature. Mais cette nature réinventée, elle a un bilan plutôt positif. À l'échelle du monde, en 1962, il y avait à peu près 2 millions et demi de kilomètres carrés qui étaient considérés comme parcs, alors je mets des gros guillemets, naturels. En 2014, c'est 32 millions de kilomètres carrés qui sont d'espaces protégés. Ces espaces protégés, ils permettent, même s'il y a des hommes, même s'il y a 3 millions de visiteurs à Yellowstone, ils permettent quand même, non pas une gestion très, très stricte et surtout pas naturelle, mais au moins ils permettent à ce qu'un certain nombre d'espèces puissent subsister, pas seulement des espèces macroscopiques, parce que j'en ai un peu assez de voir. Alors je sais bien que c'est affreux, je dirais le décret Trump qui permet de tirer les ours polaires ne paraît pas d'une intelligence sublime. Mais en même temps, si vous voulez, j'en ai un peu assez de voir toujours l'ours polaire représenter la nature, alors qu'il faut dire qu'il a besoin d'être des désenglacements pour aller chasser le phoque, d'abord. Et puis deuxième chose, contrairement à ce qu'on peut imaginer en Alaska, par exemple, pour aller chasser l'ours polaire, il faut se prendre la Dalton Highway. Et la Dalton Highway, c'est la conduite de l'impossible. Vous ne pouvez pas y aller. Je ne sais pas. Alors peut-être que les gars, les Alaskans, ont les moyens d'y aller en hélico et de tirer les ours. Mais si vous tentez de prendre la Dalton Highway, vous avez des gardes à l'entrée qui vous interdisent de passer, parce qu'elle est trop dangereuse. Donc malgré tout, malgré ça, les politiques de protection se révèlent, bon an, mal an, et même si ce n'est pas naturel, se révèlent des choses extrêmement utiles. Tant pis pour la nature et tant mieux pour la protection. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions précises sur cette intervention? Quelqu'un peut les prendre et ensuite, de toute façon, M. Lemartinel reste à la tribune et pourra échanger. Et vous présentez, c'est juste pour des raisons d'enregistrement.
Oui, Charlotte Sauvion, paysagiste à la ville de Poitiers. Moi, j'avais juste une question sur le postulat de dire que l'homme ne fait pas partie de la nature. Je m'interroge.
Ah, oui, effectivement. C'est un postulat à l'origine. La création même, par exemple, de Yellowstone est typique de ce postulat. Il y a, je vous rappelle la Bible, la Genèse en particulier. Dieu crée les animaux qui volent, les animaux qui nagent, etc., la végétation, et puis met l'homme au milieu pour dominer tout cet espace. Donc, dès le départ, au fond, les parcs naturels ont été conçus comme un lieu qui sépare l'homme de la nature. Et l'homme ne faisant pas partie de la nature. D'ailleurs, il y a un mot très révélateur, c'est environnement. On en parlait tout à l'heure en conversation privée. Le fait même d'utiliser le mot d'environnement est tout à fait typique encore de la persistance de cette pensée. Alors pour moi, bien évidemment, l'homme fait partie de la nature, mais il la dépasse quand même en sens que il y a une noosphère qui se crée, une sphère de la pensée qui n'appartient pas, d'une certaine manière, aux animaux. Le langage même animal n'est pas tout à fait un langage. Il y a une communication animale, j'en suis bien d'accord, mais pas, par exemple, un langage qui permet le développement d'idées, au fond, métaphysiques. Il n'y a pas de métaphysique de l'animal, enfin, animal, si j'ose dire. Voilà. C'est pour ça que, bien sûr, je suis bien d'accord que nous faisons partie de la nature, et d'ailleurs, c'est une des raisons de respecter ceci. Mais en même temps, il faut être capable de penser qu'on agit dessus. Voilà.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Jean-Philippe Minier veut bien nous rejoindre. Donc, mais vous restez, monsieur Lemartinel.
Ah bon, je reste.
Oui, vous restez. Si on aura un débat peut-être à 3 ou 4 après. Donc, vous allez nous parler du Conservatoire des espaces naturels de Poitou-Charentes, mais aussi de votre intervention plus précise. Mais je vous laisse la parole.
Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Donc, en tant que paysagiste concepteur au sein d'une structure qui gère des espaces naturels, j'avoue que le sujet m'intéresse particulièrement parce que, bon, d'une part, la gestion des espaces naturels telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France reste encore quelque chose d'assez méconnu et surtout que c'est un élément de créativité en ce sens où elle est jamais dans une logique de recette. C'est-à-dire qu'on est sans cesse, en fait, dans une situation de réinventer des choses, de réinventer des regards, de réinventer des pratiques, des façons de trouver des solutions en fonction des caractéristiques locales. Donc, elle s'exprime dans différents champs, je vais en illustrer que quelques-uns. Ce serait trop long de développer des aspects un peu trop techniques et scientifiques aujourd'hui, et j'en serais pas forcément capable d'ailleurs. Donc moi, ce qui m'intéresse de vous décrire, c'est l'aspect de lieu, la capacité d'un lieu à déclencher une émotion. Je vais m'appuyer sur un site tout près de Poitiers qui est situé à Dissay. La notion de contexte et comment la description d'un contexte paysager singulier, on va identifier des singularités justement pour conduire un projet de gestion et d'aménagement. Et troisième et dernier volet, c'est la notion de fragilité, puisqu'on manipule des choses extrêmement fragiles, sensibles, et donc il faut y aller avec des pincettes. Et là, ça sera un exemple charentais. Alors, c'est parti. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allons-y. Alors, deux mots sur les missions du Conservatoire. Connaître, protéger, gérer, valoriser les espaces naturels d'intérêt écologique, géologique et paysager, donc à l'échelle de la région Poitou-Charentes. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est commun à l'ensemble des conservatoires d'espaces naturels français. Donc il y a un réseau national de conservatoires qui fonctionne de la même manière. Les façons de fonctionner sont celles-ci, des interventions directes, c'est-à-dire que nous sommes en capacité d'avoir une maîtrise foncière sur les espaces, donc d'acheter des terrains et pour ensuite y mettre en œuvre des actions de gestion. Nous avons possibilité d'avoir des conventionnements aussi avec des acteurs publics ou privés, d'avoir des actions en assistance technique et en accompagnement de collectivités ou de particuliers, et puis enfin la mise en œuvre de mesures compensatoires à des aménagements. On s'appuie sur un conseil scientifique et technique qui regroupe tout un ensemble de compétences que je ne vous liste pas, que vous avez ici au tableau. Vous voyez qu'il y a des spécialités bien sûr liées aux sciences de la vie et de la terre, mais également des dimensions plus sciences humaines, donc paysage, pédagogie de l'environnement. Voilà. Alors la photo d'arrière-plan n'est pas choisie par hasard, puisque précisément elle se situe dans le Marais Poitevin, donc sur le site une parcelle qui est sur le territoire du parc naturel régional du Marais Poitevin, où précisément on a été amené dans le cadre d'une expérimentation. Vous savez qu'en ce moment il y a une maladie qui arrive sur le nord-est de la France et qui est maintenant dans notre région, qui s'appelle la calarose et qui attaque le frêne. Le frêne qui est la structure arborée qui structure les paysages quand même du Marais Poitevin, donc qui pose question effectivement quant à l'évolution de ce paysage dans les années à venir. Donc la proposition que l'on a faite en tant que conservatoire d'espaces naturels, puisqu'on était gestionnaire de sites sur ce territoire, c'était d'expérimenter des espèces alternatives qui pourront être conduites sous des formes caractéristiques typiques de ce paysage, la fameuse taille en tétard. Alors, quand on intervient sur un site, voilà un peu le processus. On est dans une dynamique de projet. On regarde où on est. Là, on est sur un site bocager, en Deux-Sèvres. On fait un élément qui représente l'organisation du territoire. On écoute un petit peu les regards et attentes des acteurs locaux sur ces espaces, comment ils les utilisent, quelles ont été les pratiques sur ces espaces. On recueille les données scientifiques et on analyse le potentiel d'évolution pour préserver les espaces. Ensuite, on organise une planification d'une gestion concertée et qui va aboutir à des actions de ménagement. Je préfère dire de ménagement que d'aménagement volontairement, parce que souvent, c'est effectivement des solutions très respectueuses et très attentives aux équilibres préexistants. Alors moi, en tant que paysagiste, effectivement, dans cette structure, j'apporte un regard qui est particulier, puisque la compréhension d'un espace, pour moi, passe par la pratique du dessin, puisque le dessin permet de prendre le temps d'observer, de comprendre, d'essayer de comprendre les signes qui font qu'on a un paysage sous sa forme telle qu'elle se présente. Et le dessin permet de prendre le temps d'observer, de se poser des questions, et voilà, donc c'est vraiment important. Et donc là, c'est des collègues de travail hein, du conservatoire à qui j'ai demandé de faire l'exercice. Alors un autre aspect, c'est la qualité et la nature des sites qui nous sont confiés en gestion. Là, c'est un site qui est tout près de Poitiers, puisqu'on est à Montamisé. On a une intervenante tout à l'heure sur la commune de Montamisé. Donc il s'agit du site des Carrières dans Soulès. Donc c'est un site qui a été un lieu d'extraction de pierres très très important, donc un site industriel, et qui aujourd'hui, effectivement, après plusieurs décennies de non-utilisation, arrive jusqu'à nous dans un état voilà, où la friche est très présente, où on a tout un ensemble de faits qui montrent un abandon, des qualités spatiales qu'il faut identifier. Je trouve que cette photographie montre bien les ambiances que l'on peut trouver sur ce site-là. Mais on est sur un espace naturel majeur et qui a une diversité faunistique et floristique remarquable et qui est génératrice d'émotions et qui a fait justement que ce site a fait en sorte qu'un artiste se s'en saisisse et qu'il installe des sculptures qui rendent hommage en fait au patrimoine naturel que l'on trouve sur ce site. Alors voilà, j'aborde les trois volets. Le lieu. Donc le lieu, on est ici à Dissay. Vous voyez un paysage qui est une vraie composition où on a des plaines de champs ouverts, quelques haies et puis un coteau qui est sur la gauche avec quelques arbres isolés, des fourrés, etc. Et ce paysage, eh bien, il est aux portes de Dissay. On est à moins d'un kilomètre de Dissay. Alors voilà l'état actuel du site. C'est un site dans lequel on trouve des moutons, des éléments pour organiser le pâturage, et puis une signalétique pour montrer, pour accéder au site, pour découvrir ce patrimoine naturel. Alors ce site tel qu'il est aujourd'hui est assez anachronique par rapport au contexte global, puisqu'on est quand même sur un secteur où l'élevage n'est plus tellement présent. Et pour parvenir à ce résultat, eh bien, c'est un projet de longue haleine, puisqu'on est parti de descriptions des Znieffs, donc dans la fin des années 80, avec voilà, tout un ensemble de process qui ont lieu avec le conservatoire donc, et la commune de Dissay, où le conservatoire a même été jusqu'à amener des brebis et à les mettre en pâturage sur le site et à aménager des parcs clôturés. Et puis, gros tournant en 2009, on a une association donc, qui s'est créée, la Dissay Nature Coteau Dépendant, pour poursuivre la mise en œuvre du pâturage collectif sur cet espace. La signature d'un bail amphithéotique, nous confions la gestion de parcelles donc, au conservatoire et l'aménagement de sentiers pour découvrir ce site. Donc, c'est une dimension qui est intéressante parce que le conservatoire est intervenu à un moment donné pour donner un regard et une analyse sur les enjeux de biodiversité. Et puis, il y a une dynamique locale qui s'est appropriée ce site et qui a souhaité s'investir pleinement dans la gestion. Un petit peu, ça c'est la partie promo du PowerPoint. On a une sortie donc le 10 mai sur ce site-là avec le procédé découverte du cyanotype, donc procédé photographique qui a été utilisé, qui a été créé au milieu du 19e siècle et qui, par un mélange photosensible sur un papier, permet de faire des photographies tout à fait originales et esthétiques sur les espaces. Donc c'est un mode de découverte du site qui est un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement. Le contexte, là on change de département, on va en Deux-Sèvres. Paysage de plaine avec un noyer isolé. Alors là, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais quand on parle de contexte, en tant que paysagiste, on a besoin, et là, ça renvoie aussi à la géographie, on a besoin de voir loin parfois. Et donc là, on va des sources du Touet jusqu'à la Loire. Et donc le bourg d'Abeille-Toircé se situe au milieu de cet ensemble. Un coteau sec, une pelouse sèche également, avec une initiative communale donc, qui a sollicité le conservatoire pour mettre en œuvre une gestion concertée sur cet espace. Et puis, devant la qualité de cette vallée sèche au sein des grandes plaines de Neuville hein, qui vont jusqu'à Thouars, c'est une vraie entaille dans ces paysages et un élément très très fort de paysage. Donc, on a souhaité confier un travail à des paysagistes de l'école du paysage de Versailles. Donc pour identifier dans quelle mesure ce motif paysager des vallées sèches qu'on retrouve beaucoup dans notre région se distribue dans ce secteur-là, quelles sont leurs caractéristiques, comment elles s'organisent, quelles sont leurs qualités, comment elles sont gérées. Et sur Abeille-Toircé, bien sûr, le point de départ étant... qu'il s'agit de deux vallées sèches qui ont un patrimoine naturel exceptionnel, avec la roquette des Murailles, la sargale de Montpellier, voilà des plantes, de nombreuses orchidées, qui sont spécifiques de ces coteaux pentus et à faible développement végétal. Alors les paysagistes ont produit des documents effectivement qui permettent de comprendre pas simplement les éléments de patrimoine naturel, mais aussi comment ces espaces ont été investis par l'homme, comment les hameaux et les bourgs se sont positionnés par rapport à cette vallée, par rapport aux zones humides, en retrait, voilà, par rapport aux lits majeurs du Touet. Ils ont produit des représentations qui permettent d'identifier les spécificités du bourg et de la commune par rapport à ces éléments paysagers de vallée sèche et de révéler leur importance à l'échelle du territoire. Alors voilà quelques photos du site. Donc on est dans le fond de la vallée sèche avec, vous voyez que l'homme est bien présent puisqu'il y a des potagers. Il y a une activité, il y a des peupliers, donc il y a une exploitation de peupliers, il y a des noyers sur la gauche. Il y a un prélèvement d'eau qui est un petit peu plus loin qu'on ne voit pas sur la photo. Il y a des pierriers sur les pelouses sèches. Les pierriers, je ne sais pas où il y a la petite flèche. C'est là, ici. Donc les pierriers qui ont été construits par les agriculteurs qui ont épierré les champs qui se trouvent au-dessus, donc qui constituent un motif spécifique de ce site. Et là, on passe à une phase projet où on se dit il faut le révéler, il faut le porter à la découverte, permettre que les gens qui passent sur ce territoire puissent accéder et découvrir cet espace. Tout en garantissant sa préservation, et sa préservation étant liée bien sûr aux activités agricoles qui vont être réintroduites dans le même temps. C'est-à-dire que l'objectif c'était de pouvoir et accueillir des publics et réinstaller un exploitant sur ces parcelles. Donc on a créé un sentier très modeste, mais justement l'exercice de ne pas heurter la qualité existante de cet espace, et puis de trouver des solutions d'aménagement qui font un peu un clin d'œil à l'activité, donc, mais qui ont aussi un rôle fonctionnel, donc, et là, qui permettent d'accueillir des équipements donc, sur lesquels on va apporter de l'information pour le public. Ces équipements vont être intégrés à l'aménagement et l'aménagement va servir également pour les moutons, donc ils vont pouvoir être passés dans ces espaces. Alors fragilité, voilà, ça c'est une petite image de transition sur le ton de l'humour, puisqu'on a fait appel sur l'inauguration de ce site qui est dans le nord de Sèvres, l'étang de Beaurepaire, à la troupe des brasseurs d'idées, et donc pour montrer, voilà, d'une manière, avec un petit clin d'œil là, avec ce panneau en l'air pour montrer attention, fragilité. Alors les fragilités, c'est le dernier volet de mon exposé, concerne ce site magnifique qui se trouve au confin de la Charente et du Périgord, la vallée de la Renaudie, qui est la première réserve naturelle régionale créée en Poitou-Charentes en 2012, dont la propriété est celle de la communauté de communes Seuil-Charente-Périgord et qui est gérée par le CREN, donc 75 hectares. Donc c'est une vallée très étroite, très longue, de 6 km, donc avec des végétations qui sont développées sur des substrats très, très peu épais, des sols alluviaux, le néfrenais, des prairies, donc très très diversifiées. Et donc depuis 2 ans, on anime un dispositif, une réserve près de chez vous, donc avec tout un ensemble d'animation ouverte, c'est-à-dire que on invite en fait les acteurs à proposer des animations en lien avec ce site, donc sur le site ou hors site, hein, selon la nature des animations. Simplement, il y a des engagements à respecter qui sont liés tout simplement au règlement de la réserve naturelle. Donc là, la première année, l'année dernière, on avait 8 partenaires qui étaient impliqués, donc il y avait donc des intervenants plutôt naturalistes, donc l'association Charente Nature, par exemple. Il y avait la bibliothèque de Montbron, une association plus pour faire la promotion touristique du site, et puis d'autres structures plutôt pour sensibiliser à la qualité de l'eau, aux enjeux de l'eau. Et donc ces animations étaient mutualisées avec d'autres événements, comme les journées européennes du patrimoine ou les journées mondiales zones humides. Alors, quelques photos pour montrer les ambiances que l'on peut retrouver sur ce site. Des ambiances très, très proches du terrain. Et là, en faisant écho à une publication que le conservatoire a produit il y a quelques années et qui expliquait que la gestion des sites était très liée à des histoires humaines. Chaque site est parti de la volonté, soit d'élus, soit d'acteurs locaux, de poursuivre l'histoire de ces sites. Ce site, c'est un site qui est traversé par une voie de chemin de fer, qui est la voie de Roumazières à Angoulême. Donc il y a trimballé des convois de tuiles. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu un espace naturel majeur et qui est très utilisé, qui retrouve de nombreux usages en lien avec cette dimension patrimoniale. Et cette année, donc, on a à nouveau cette organisation d'événements et donc un concours de nouvelles. Voilà, en partenariat avec la bibliothèque de Montbron et puis l'association à fleurs de mots. Où en fait, on invite qui veut à écrire sur cet espace des nouvelles. Voilà, le concours est en cours, donc si ça vous intéresse. Voilà, merci de votre attention.
Bien, merci beaucoup et merci d'avoir terminé d'ailleurs par cet appel au concours, formidable, puisque nous avons aussi on l'a vu avec Céline qui suit les Vienne et les Deux-Sèvres, une collègue qui suit Charente-Maritime, donc on lui fera passer l'information. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à Jean-Philippe Minier, très précis sur son exposé? Des remarques? Oui, allez-y, vous avez le micro. Là.
Il fonctionne?
je pense.
Oui, il fonctionne. Oui, non, je pense sincèrement, moi ça m'intéresse beaucoup là, ce que vous avez fait. C'est peut-être que, vous savez, en matière de vocabulaire, les clarifications ne sont jamais inutiles. Bon, on parle de nature, mais pour moi c'est de la culture, hein, quand l'agriculture même, quand vous avez des moutons, des champs, etc. Je pense que il faudrait peut-être clarifier le vocabulaire, parce que pour les petits habitants de la Seine-Saint-Denis ou de Paris-Centre, ils sortent de Paris et ils voient des grands champs, les grands open fields de la Beauce, et ils disent « Oh, ça, c'est la nature hein ». Donc, je me demande si une clarification de vocabulaire ne serait pas utile, parfois, pour éviter d'utiliser le terme « naturel » là où il n'est pas. Ce n'est pas, évidemment, au contraire, un reproche. Hein. C'est simplement une idée générale.
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition. Je pense que justement, oublier et ne plus utiliser ce terme, c'est mettre un chapeau dessus. L'activité de gestion des espaces naturels est liée à un ensemble d'activités humaines qui ont amené la nature telle qu'elle est aujourd'hui jusqu'à nous. Et bien sûr, tous les espaces naturels européens ont été modifiés de la main de l'homme. Mais c'est bien un ensemble d'activités qui les a modifiées. Et aujourd'hui, le Conservatoire d'espaces naturels, voilà, dans son appellation même, reprend cette dimension, parce qu'il s'agit bien de ça. C'est du patrimoine naturel, c'est du fonctionnement vivant qui est préservé avec des espèces, avec un accompagnement à des degrés divers de la main de l'homme.
Oui, patrimoine naturel, oui, ça me va tout à fait. Je vous suis tout à fait.
Bien. La séance de l'Académie française étant terminée. Non, je plaisante. Juste peut-être une précision, parce que vous avez parlé de région Poitou-Charentes. Or, administrativement, elle n'existe plus. Donc, comment est-ce que vous vous situez dans la Nouvelle-Aquitaine ?
Alors, on est, comme je vous le disais, hein, on a un réseau national de conservatoires d'espaces naturels. On a deux autres conservatoires en Nouvelle-Aquitaine. Le Conservatoire d'espaces naturels Limousin et le Conservatoire d'espaces naturels Aquitaine. Donc, ils font le même métier que nous et on travaille ensemble.
Okay. Non, c'était juste ça, parce que pour savoir comment ça s'organisait administrativement, parce que c'est une préoccupation que nous avons tous. On en parlera tout à l'heure peut-être avec Poitiers, qui n'est plus capitale régionale. Et donc, évidemment, ça oblige Poitiers aussi à se positionner autrement. Voilà. Juste une précision aussi, parce qu'on a peut-être des élus dans notre assistance. J'en connais un, en tous les cas. Monsieur le maire des Éroles, merci d'être présent parmi nous. Célèbre foire, d'ailleurs, hein, je le signale chaque mois. Comment est-ce qu'un élu peut faire appel au conservatoire s'il a besoin de conseils voilà, ça se passe naturellement, j'ose dire.
Absolument. Hein, on a des sollicitations très diverses. On peut avoir effectivement des sollicitations de partenaires associatifs, des associations de protection de la nature, des particuliers, des collectivités, effectivement, qui font appel à nous. Et on se déplace sur site pour évaluer l'intérêt biologique et paysager de l'espace à considérer. Et si ça passe ce premier niveau, après, on nourrit le dossier et on le présente au conseil scientifique et technique. Voilà, c'est le processus. Et après, le conseil d'administration qui suit effectivement l'avis du conseil scientifique et technique. Ou pas.
D'accord, merci. Si pas d'autres réactions, je propose donc à Stéphanie Lafitte de nous rejoindre. Vous restez, hein, monsieur Minier. Il y a encore assez de chaises. Donc là, on regard croisé, j'en parlais tout à l'heure. D'ailleurs, juste avant de lui laisser la parole. On essaie aussi de maintenir un lien avec les entrepreneurs. Bon, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans la salle, ou des gens qui veulent créer. Peut-être là, il y en a quelques-uns. Mais entre autres, je signale simplement dans l'entreprise Aigle, qui est au nord de notre département, la présence de quelqu'un qui s'appelle Yves Troussel, qui travaille beaucoup sur la biodiversité à l'intérieur de l'entreprise. Alors, je ne sais pas s'il vous a consulté ou pas, mais on pourra lui en faire part. Mais voilà, il y a aussi le monde de l'entreprise qui se préoccupe de ces questions-là. Bien, Madame Lafitte, donc vous êtes compteuse, donc on va vous laisser compter.
Donc petit pas de côté, une devinette pour commencer. Quel est l'arbre qui n'a que deux feuilles ? Avec tous ces amateurs de nature, tout de même. Seriez-vous dur de la feuille ? C'est vous, avec vos deux oreilles. Prêtez-les-moi. Cric ! Cric ! Cric ! Eh bien, je vais vous amener en voyage chez moi. C'était au temps où la lande, c'était vraiment une lande, une grande étendue d'herbes rases, marécageuses l'hiver, desséchées l'été. Et puis quand le vent de l'océan soufflait par-dessus la dune, en ce temps-là, il ne trouvait pas grand-chose pour lui résister. Il y avait juste quelques hommes perchés sur leurs tchanks, sur leurs grandes échasses. Vous avez dû voir ça hein, sur les images, là. Les bergers landais avec leurs gilets de peau de mouton et leurs bérets. Eh bien oui, il n'y avait que pour résister au vent du large. C'était un pays de troupeaux en ce temps-là, un pays de bergers. Puis dans la grande lande, là-bas, du côté de Moustey, ils étaient deux bergers à garder tous les troupeaux du pays. Alors il y avait le vieux Antoine, qui était un brave homme, comme on n'en trouve plus beaucoup, hein, et puis qui aimait ça, ses bêtes, puis son pays. Puis à côté, on avait mis un petit pour qu'il apprenne le métier, parce qu'il faut bien qu'ils apprennent quelque chose. Hein. Lui, c'était le Louis, mais lui, c'était pas trop son affaire. Hein. Les brebis, tout ça. Lui, ce qu'il aimait, c'était écouter la chanson du vent du large qui soufflait, et puis rêver ailleurs, rêver à l'océan qui roulait ses vagues pas loin, là. Et puis ce jour-là, c'était une belle après-midi de juin, il faisait chaud, vraiment chaud. Et puis ça faisait déjà plusieurs fois que le petit soupirait. « Antoine, Antoine, regarde-les les bêtes, elles vont pas nous faire courir, t'es. Regarde, elles se sont cachées sous la fougère, elles sont moins bêtes que nous, tiens, on dit qu'elles sont bêtes, mais nous on est là, pités sur notre chanque, en plein soleil, oh !» Hé, hey, Toine, on va pas continuer comme ça, là. Allez, on pourrait bien déchausser un peu quand même. Allez, Toine, une petite sieste. Oh. Puis le vieux, lui, faisait celui qui n'entendait pas. Il baissait un peu plus le béret sur le nez. Puis tout de même, hein, la quatrième fois, il a dit « Ouais. Ouais, mon drôle, ouais, je crois que pour moi aussi, ça serait bien de faire une petite sieste, ouais. T'as raison, les bêtes sont sages, on va pas courir aujourd'hui. » Alors, ils se sont appuyés contre un des rares arbres qu'il y avait en ce temps-là. Là, c'était un petit bouleau qui était là, ils se sont appuyés pour déchausser, c'était pas une petite affaire. Puis se sont allongés, là. Ils étaient bien. Ah, y avait juste un petit air comme ça qui leur chatouillait le nez. Puis l'ombre des fougères. Puis le vieux Antoine, il s'est endormi d'un coup, la bouche ouverte. Et Louis, il rêvassait. Et puis tout d'un coup, il a vu sortir de la bouche d'Antoine une abeille. Et l'abeille a volé, elle a fait tout un tour comme ça au-dessus des fougères et puis elle est allée plus loin au-dessus des bruyères comme si elle cherchait quelque chose, elle s'est mise à tourner en rond. Et Louis, il a quitté pas des yeux cette abeille et puis il a fini par se lever et puis par aller là. Et il a vu que l'abeille, elle avait trouvé un vieux crâne. Un vieux crâne de brebis blanchi par la pluie, par le vent. Et l'abeille, elle tournait là autour comme si elle avait trouvé un trésor. Et puis elle est rentrée par le crâne, par le trou d'un orbite. Et elle a voyagé là-dedans. Elle a tourné, viré. Elle a exploré pendant un grand moment. Et puis elle est ressortie par l'autre orbite. Et puis elle est revenue par-dessus la bruyère, par-dessus la fougère. Elle est revenue jusqu'à Antoine, qui dormait toujours, et elle a disparu par sa bouche, comme elle en était sortie. Puis juste à ce moment-là, Antoine, il a ouvert les yeux, et il avait l'air de revenir de loin. Et puis il a regardé Louis là, qui le fixait d'une drôle de manière. Oh petit, ah, j'ai fait un rêve, tu sais, mais oh, c'était un drôle de rêve. Tu vois, je rêvais que je volais et j'étais au-dessus d'un beau paysage. C'était magnifique. Et puis je suis arrivée comme ça devant un grand palais de marbre blanc. C'était beau, c'était grand. Et puis moi, je suis rentrée là-dedans, j'étais comme un roi, tu vois. J'étais fière, j'étais heureux. Et puis je savais que ce palais, il était construit sur un trésor. Et que ce trésor-là, c'était le mien. Eh, tu vois, c'était un bien beau rêve, ouais. Ouais, ben... Eh, Toine, je vais te le montrer, moi, ton beau palais, là. Eh, viens avec moi, viens, approche-toi, viens. Et puis là, Louis, il a amené Antoine jusqu'au crâne de brebis. Et puis, il lui a expliqué comment il avait vu l'abeille sortir de sa bouche, voyager, puis revenir. Puis là, ils se sont regardés tous les deux, ils n'ont pas eu besoin de se parler, dis donc, hein. Ils se sont précipités, ils ont soulevé le crâne, et puis ils n'avaient pas de pelle, non, mais le sable, c'est pas dur, hein. Alors ils se sont mis à creuser. Puis ils ont trouvé, oui. Oh, c'était pas un beau coffre de bois avec des pièces d'or. Non. C'était une vieille boîte à fer blanc de biscuits, vous savez, toute rouillée. Sauf que là-dedans, il y avait des vraies pièces d'argent qui brillaient dans leurs mains. Un trésor de brigand ou alors de marchand, on va savoir. Mais avec cet argent qui brillait, là, les deux, ils allaient pouvoir réaliser leur rêve. Et puis leur rêve, ben, ils n'ont pas mis longtemps à les trouver parce que, bon, le petit, lui, il avait tellement écouté la chanson de l'océan, il a pris ses sous, il a filé droit vers l'ouest, il s'est fait construire une belle pinassotte, il s'est fait par cœur, là, ostréiculteur, sur le bassin d'Arcachon. Puis on ne l'a plus revu dans le pays, en tout cas. Il était mieux là-bas. Puis le vieux, lui, il avait passé tellement de temps à garder les bêtes des autres, il se voyait pas faire le monsieur, là, et puis faire garder par d'autres, non. Par contre, il avait entendu dire qu'on faisait pousser des arbres. Alors il a fait ça. Il s'est fait berger de forêt, jardinier d'arbres, et puis un des premiers sylviculteurs, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, hein, de cette nouvelle forêt qui sortait tout juste de terre, la forêt des Landes de Gascogne. C'est la nôtre aujourd'hui, la plus grande d'Europe, ça paraît. Yé, cric ! Yé, crac ! Et le comte, il repart dans son sac.
Bien, merci de nous avoir fait vivre en direct ce comte. Alors, peut-être des questions, bien sûr, mais moi, une précision. Comment fait-on appel à vous ? Et où on vous trouve ?
Oui, donc moi, je voulais partager un petit peu en direct ce que je peux faire. C'est surtout dans la nature que ça se passe. C'est surtout sous forme de balade comptée, assez souvent dans des espaces naturels, alors qu'on dit sensible en Gironde. C'est notre petit mot à nous, hein, espace naturel sensible du conseil départemental, et aussi dans le parc national des Landes de Gascogne, et puis sur d'autres territoires où on travaille. Alors je dis on parce que ça fait longtemps, moi, que je fais des balades comptées dans la nature en cherchant les comptes qui résonnent dans le paysage. Et moi, je laisse venir. En fait, j'arrive à faire les choses que je préfère faire, c'est-à-dire marcher à la rencontre des paysages et puis raconter des histoires. Donc, j'arrive à faire les deux. Je suis assez contente de moi pour ça, même si on peut bien se douter que ce n'est pas tous les jours et puis ce n'est pas si facile que ça. Mais depuis quelques années, je travaille avec une artiste paysagiste, hein, si on peut dire. Enfin, elle vient de là, en tout cas. Mais elle est carnétiste. Elle dessine. je ne sais pas ce que je voulais dire par là. Oui, elle voyage beaucoup en tout cas. Elle voyage beaucoup, Sophie. On s'est rencontrés comme ça et on fait des voyages dans nos paysages, c'est-à-dire près de chez nous, sous forme de carnet de voyage. Donc j'en ai amené pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. On a travaillé avec le parc des Grands Causses dans le Larzac. Et puis bon, aussi sur l'estuaire de la Gironde. Mais j'avais juste envie de vous parler d'un peu plus près d'une toute petite île qui est sur la Garonne, qui s'appelle l'île de Raymond. Voilà, ça c'est notre dernier carnet, donc c'est normal, c'est celui qu'on préfère, quoi. C'est le dernier, c'est le petit dernier. Donc ça, c'était vraiment aller à la rencontre d'un tout petit territoire qui, a priori, est pas tellement excitant, hein, parce que là, pour le coup, c'est une île qui a été faite parce qu'on a creusé beaucoup, à un moment donné, le lit de la Garonne. On a pillé le fleuve pour récupérer du sable, du gravier, tout ça. Il y a eu des transformations, bien sûr, dans ces endroits-là. Et cette île a servi pendant longtemps à cultiver du maïs. Donc quand la communauté de communes l'a racheté, c'était pas c'était un peu tristouné là, c'était des champs de maïs. D'accord, c'était une île, mais il y avait juste un petit bras mort qui la séparait de la rive. Et petit à petit, ils remettent en place une diversité sur cet espace. Et on s'est retrouvés, nous, à se passionner pour ce tout petit bout de terre, avec l'eau qui est quand même là, et avec des brebis, parce qu'il y a aussi une introduction de brebis, justement, pour maintenir une diversité dans... Les espèces herbacées qui ont été remises en place à partir d'autres prairies de même milieu. Donc c'est juste pour dire le type de travail qu'on peut faire et que finalement, les paysages, ça se visite aussi avec l'imaginaire et avec ces contes qui nous en disent quelque chose, quoi. Donc entre le passé et puis le présent. Okay. Voilà.
Donc si on veut avoir votre contact, c'est ici. Hein.
Voilà, j'ai laissé des cartes et puis les carnets à regarder si vous avez envie.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce aspect des contes? Je sais que parmi nous, il y a des musiciens et des artistes, donc n'hésitez pas. Hein. Si vous avez fait des choses musicalement dans la nature, vous pouvez témoigner aussi. Voilà. Donc je vais demander à Camille Bévillon de nous rejoindre. Vous restez, si vous voulez. Il y a encore de la place. On changera tout à l'heure.
Quand je tombe là-bas, c'est bon.
Donc là, on change de sujet encore. Enfin, on est dans le même sujet global, mais là, c'est quelque chose qui est en émergence, si j'ose dire. Mais je vais vous laisser nous conter cette émergence.
Oui, ça va être moins poétique. Mais bon. Donc moi, je vais vous parler d'un territoire... Alors, on va parler de parc naturel régional, mais on a plus l'habitude de dire que c'est un territoire rural. On ne parle pas forcément en premier de territoire naturel pour parler de ce territoire. Donc, c'est le projet de parc naturel régional du Pays de Gâtine, qui est porté par le Pays de Gâtine, donc qui s'appellerait le parc naturel régional de Gâtine-Poitevine. Et donc... pour vous montrer où c'est situé, donc justement par rapport à cette nouvelle grande région. On est presque à l'extrême nord. Donc on est donc dans le département des Deux-Sèvres, en plein milieu. On va dire qu'on traverse le département. Et donc on a la ville de Parthenay au milieu, la sous-préfecture de Parthenay. Et donc on est à l'intersection, enfin on est sur la route entre Poitiers et Nantes. Donc un axe majeur de déplacement en voiture et en camion. Donc le Pays de Gâtine, c'est le Pays de Gâtine avant 2014, où il y avait 11 communautés de communes. Donc le pays, il a été créé il y a plus de 40 ans. Donc il y avait encore, il y a quelques années, des communes qui ne faisaient pas partie de communautés de communes. Et puis, il a évolué un petit peu comme tous les territoires, hein, avec des regroupements. Et aujourd'hui, il y a quand même très peu de communautés de communes, qui ne sont pas dans une communauté de communes. On a perdu, on va dire, enfin, il y a une partie qui nous a quittés, là, toute la partie autour de Montcoutan, qui a rejoint l'agglomération du Bocage-Bressuirey. Et puis, on voit que, du coup, ça s'est structuré avec une grande communauté de communes au centre, autour de la ville de Parthenay. Et dernièrement, au 1er janvier 2017, on a plus que 3 communautés de communes, avec au nord une dernière plus petite. Voilà, donc on ne sait pas trop encore si elle va rejoindre celle du sud ou se diviser autrement. Donc il y a 66 000 habitants à l'échelle du pays de Gâtine pour 82 communes, avec une densité de 41 habitants au kilomètre carré, donc c'est faible, mais c'est pas dans les plus faibles. On verra notamment, il y a des parcs naturels régionaux où il y a beaucoup moins d'habitants. Donc en quelques points, c'est un territoire, on va dire, qui est rural. Il y a une ville-centre Parthenay qui fait environ 10 000 habitants, qui n'augmente pas beaucoup en termes d'habitants dernièrement. Et on a 3 communes entre 2000 et 3000 habitants, donc en dessous, il y a quelques communes à plus de 1000 habitants, mais il y a beaucoup de communes de moins de 1000 habitants. Et cette ville-centre, elle est à 30 km de la première gare TGV, et donc on a une offre de transport collectif qui est assez limitée, et donc beaucoup de trajets et de déplacements en voiture. Je vous mets tout le contexte un petit peu, mais on va voir que c'est assez important quand on parle d'aménagement du territoire. Donc il y a un historique de territoire d'élevage qui a façonné justement le paysage. Et puis en effet, aujourd'hui, on voit que c'est une activité agricole qui est un petit peu en recul et qui connaît des difficultés, comme ailleurs sur le territoire. On a des richesses patrimoniales qui, pour les habitants du territoire, sont souvent vécues comme un paysage du quotidien. Même s'il y a des choses intéressantes, on a vu, on a Vaït-Warsay qui est dans le territoire, dont on a vu quelques diaporamas précédemment. Et puis par contre, ce qui peut être assez marquant, c'est une forte identité gâtinaise autour de l'appartenance à ce territoire, dont on se rend pas forcément compte parce que c'est pas un territoire qui est connu d'extérieur, hein, il faut se l'avouer. On connaît pas forcément le pays de Gâtine dès qu'on dépasse le Poitou-Charentes. Et donc on peut, comme ailleurs dans les territoires ruraux, on a un tissu industriel et donc l'emploi qui peut être fragile, avec beaucoup de concurrence entre les territoires. Donc voilà pour le contexte. Par rapport au pays de Gâtine, donc il a 40 ans. Aujourd'hui, c'est un pôle d'équilibre territorial et rural. Donc vous allez voir au niveau des mots et des termes, c'est vrai que par rapport aux interventions précédentes, on va beaucoup distinguer là ce que c'est qu'un parc naturel régional par rapport à un parc national. Ça n'a pas du tout le même impact sur le territoire et sur la protection des espaces naturels. Un parc naturel régional, c'est vraiment un outil d'aménagement des territoires ruraux. C'est pour ça que ça a été créé il y a 50 ans. À la différence des parcs nationaux qui ont vraiment pour objectif de protéger des cœurs de biodiversité. Et donc les parcs naturels régionaux, c'est des outils qui sont mis en place par des collectivités avec les acteurs du territoire. Donc le pays de Gâtine, lui, il existe aujourd'hui et il a pour volonté et pour vocation de se transformer en parc naturel régional. Il fonctionne donc avec des élus qui sont nommés par les communautés de communes. Donc on a 9 personnes qui travaillent au pays de Gâtine et on travaille également avec le CARUC, qui est une association de développement culturel à la même échelle du territoire, et Tourisme en Gâtine. Donc on voit la structuration du territoire, d'où la justification et l'envie de créer ce projet de parc naturel régional. Donc rapidement au niveau du paysage. Et puis, ce n'est pas ma spécialité, donc aujourd'hui, je ne voudrais pas faire d'impair. Mais donc, on a une partie centrale qui est vraiment bocagère. Alors, on ne dit pas trop bocager chez nous, parce que le bocage, c'est la communauté de communes d'à côté. Donc, Donc c'est la Gâtine, on va dire le cœur de la Gâtine, avec vraiment encore de l'élevage. On va avoir sur les côtés des espaces de transition, donc entre la plaine du Thouarsais et puis un espace de transition avant la plaine du Niortais. Et donc les autres unités paysagères marquantes, ça va être cette vallée du Thouet qui redescend jusqu'à Parthenay et dont les sources se font par ici, et en même temps du coup que l'autre vallée, la vallée de l'Authis. Donc ces deux vallées, elles vont créer un peu le lien entre toutes ces unités paysagères. Donc l'ambition des élus pour créer un parc naturel régional, c'est donc de favoriser le développement économique et l'attractivité du territoire tout en préservant le cadre de vie. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur la protection de la nature comme première ambition et comme premier objectif de la création d'un parc naturel régional. Les parcs naturels régionaux, ils sont destinés donc à des territoires remarquables, mais aussi fragile et menacé, aussi bien fragile et menacé par rapport à ce patrimoine naturel, mais aussi par rapport à l'activité humaine sur ce territoire et par rapport à la population qui peut y vivre ou s'y installer. Donc les enjeux qu'on va avoir, donc nous on en est au tout début. L'historique du projet, c'est en 2005, une première volonté des élus 2005-2007 de travailler sur un projet de parc. Et donc à l'époque, la région Poitou-Charentes était occupée à reconquérir le label du parc du Marais Poitevin. Donc le projet de la Gâtine a été mis un petit peu de côté. Et l'ancien président du Pays de Gâtine, aujourd'hui président du conseil départemental, a relancé ce projet fin 2015. Qui a été repris par la région Nouvelle-Aquitaine, qui a choisi d'accompagner deux projets de parc naturel régional, donc tout au nord la Gâtine et tout au sud la Montagne Basque, sachant qu'il y a déjà 4 parcs en région Nouvelle-Aquitaine et un qui est en projet mais bien avancé dans les Landes, dans le Médoc. Pardon. Voilà, donc nous, l'idée, c'est aussi de réussir, au-delà du projet de parc, de réussir à refaire un projet transversal à l'échelle d'un territoire qui, du coup, avec l'agrandissement des communautés de communes, a tendance à se recentrer sur des compétences propres aux compétences des communautés de communes, où on ne va pas aller vraiment plus loin dans la recherche de transversalité et de création de projets tous ensemble. Et donc voilà, remettre de la solidarité entre ce territoire qui est assez vaste, qui a 82 communes, et surtout éviter un projet comme le SCOT, qui est porté à l'échelle du pays, qui relève plus, le SCOT c'est un schéma de cohérence territoriale, c'est un gros document de planification et d'aménagement, qui va plus être accepté par le territoire, et là, on recherche plus une logique d'appropriation de ce projet par les élus et surtout par les acteurs du territoire. Donc l'intérêt, c'est aussi de remettre en marche un conseil de développement qui n'existe plus depuis plusieurs années à l'échelle du pays. Et donc on a perdu cette habitude de travailler avec les acteurs du territoire. Et donc ça a semblé en effet pour les élus être l'outil idéal pour répondre aux fragilités identifiées dans le SCOT. Et vous allez voir que c'est assez technique ce que je peux vous dire, mais la procédure de création d'un parc, elle est assez longue, elle est assez complexe et elle demande de réussir à mobiliser sur la durée, à répondre à des acteurs qui vont avoir beaucoup d'attentes par rapport à un projet comme ça, mais il faut aussi accepter qu'il y a des exigences administratives assez lourde, et puis on a toujours plus de concurrence et plus de formalisme à respecter dans la création des parcs. Et ça a beau être un outil qui a 50 ans, c'est un outil qui a toujours beaucoup de succès. C'est assez impressionnant parce qu'on a plutôt l'habitude, quand on fait de l'urbanisme ou de l'aménagement du territoire, de voir des nouveaux outils qui vont être créés tous les 10 ou tous les 20 ans. Et donc les parcs, ils ont 50 ans cette année, puisqu'ils avaient été créés par le général de Gaulle. Donc vous voyez ça, je ne vais pas vous le détailler du tout, mais c'est pour vous montrer la procédure qu'on doit suivre. Et donc nous, on est là. Mais
mais je suis jeune. Pas les élus, mais mince, on est enregistré. Alors, donc, on était là-dessus, et comment on part de là avec quelques élus qui sont motivés sur le territoire, d'autres qui attendent de voir. Donc nous, on doit créer un dossier, on doit écrire un dossier d'opportunité qui nous permet après d'avoir un avis d'opportunité qui nous autorise à écrire la charte du parc. Et cette charte, elle est valable après 15 ans. Donc après, on est quand même, on peut vraiment rentrer en dynamique parc après 15 ans, sachant que dès qu'on est en projet de parc, on peut déjà mettre en place pas mal d'actions, mais nous, on est vraiment en amont. Donc ce dossier d'opportunité, voilà, il doit, notamment, si je vous mets le détail, c'est parce qu'il doit montrer la justification du choix de l'outil PNR par rapport à d'autres outils d'aménagement du territoire et surtout à d'autres outils de protection du patrimoine naturel. Donc c'est ça qu'il faut amener comme justification dans ce dossier. Et puis il doit aussi montrer la motivation et l'engagement des acteurs et la pertinence et la cohérence du périmètre d'études choisi, sachant que pour nous, pour l'instant, c'est le périmètre du pays, le périmètre du SCOT, même si, en effet, on l'a vu, hein, avant, il y avait une partie de la communauté de communes de Montcoutan qui était intégrée au pays. Et puis, on voit la Gâtine, elle a tendance à traverser un peu ce territoire, enfin, le cœur de la Gâtine. Donc, on peut se poser la question des limites du territoire. Donc voilà les questions qu'on doit se poser. Donc pour la concertation et pour répondre au grand schéma qu'on a vu tout à l'heure, on a essayé de voir comment on pouvait essayer de travailler dans cette première partie de dossier d'opportunité pour concerter, même si on a plus trop l'habitude de le faire sur d'autres projets, ou en tout cas on le faisait plus avec les élus, ou alors de façon très sectorielle selon des thématiques. Donc là, il faut réussir à concerter plus largement. Donc on a réfléchi avec notre petite araignée, et puis on met en place petit à petit ces temps de concertation, tout en écrivant le dossier d'opportunité. Donc voilà, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas très fort, comme la communication numérique, parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Les animations grand public, c'est comment réussir à toucher la population à l'échelle de 82 communes. Et puis là, on travaille justement actuellement à la mise en place de nos commissions de travail. On va en reparler après. Donc nous, pour cette année, voilà le calendrier qu'on s'est fixé. Et donc on va travailler avec des séminaires et avec des commissions de travail thématiques qu'on a essayé d'élargir. Et on va aussi essayer d'aller voir les élus municipaux, puisqu'au pays, on n'a pas tous les élus du territoire. Quand on fait une réunion avec les maires, on a le maire, mais après, il ne sait pas forcément en parler au conseil municipal. Donc c'est essayer d'aller vers eux et de toucher tous les élus du territoire. Et puis on va essayer aussi de faire des visites d'études dans d'autres parcs. Ça marche assez bien. Et même si tous les parcs sont différents, on voit sur la région Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas un parc à la même base paysagère, on va dire. Mais donc on va essayer d'aller en visiter peut-être ailleurs que dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui pourrait ressembler à notre projet de parc. Donc voilà, on va passer de commissions très sectorisées. On avait 7 commissions de travail avec 40 élus qui étaient souvent présents dans 2 ou 3 commissions où on parlait que d'environnement dans une, que de culture dans l'autre. Et donc on a essayé de mélanger tout ça et de l'étendre aux acteurs locaux. Donc on a 4 commissions de travail où on a essayé d'avoir des visions un peu plus transversales, avec une commission activité où là on va essayer de faire travailler en même temps les acteurs de l'économie, mais aussi sans oublier l'agriculture et le tourisme, qui sont vraiment des thématiques importantes dans un parc naturel régional. Une commission plus sur la culture et le patrimoine. Une commission sur la vie quotidienne des habitants, avec l'aménagement du territoire, les services à la personne. Et une commission cadre de vie, dans laquelle on a les acteurs de la protection de l'environnement, mais aussi le monde agricole et les éleveurs, vu qu'ils sont liés à ce paysage. Et puis pour finir, je vous disais qu'on n'était pas hyper fort en communication parce qu'on parce qu'on débutait et qu'une administration, elle n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses. Mais donc, on a travaillé là, on a soutenu un projet de la communauté de communes qui organise le FLIP, peut-être que vous connaissez, puisque c'est un festival de jeux qui est assez connu sur Parthenay. Et donc, l'an dernier, ils avaient fait un concours de création de jeux, en lien notamment avec le parc Mouton Village, qui est un parc autour du mouton. Et donc, ils ont créé un jeu qui s'appelle Mouton, et qui sortira cet été à l'occasion du FLIP. Et donc, voilà, on va s'en servir pour communiquer un peu sur notre projet, essayer d'aller toucher d'autres publics que les élus ou les associations ou les institutions. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour l'exercice, parce que c'est pas évident, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça démarre, quoi, parce qu'on voit souvent des réalisations, et là, on est tout de suite plongé dans le vif du sujet d'un démarrage d'un projet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Vous présentez pour l'enregistrement.
Marianne Boivrelier de la mairie de Montamisé. En fait, c'est juste une indication par rapport au jeu, qui est en budget participatif. Oui. Et donc, si vous voulez participer pour que ce jeu soit édité, n'hésitez pas à aller sur le Facebook.
Oui, c'est vrai.
Du FLIP.
Vous voyez, je suis hyper nulle en communication. C'est sur le site participatif KissKissBankBank. Donc, il y a encore, je crois, 2 semaines pour soutenir la sortie du jeu.
Donc, c'est du gros fundraising.
Sinon, on ne pourra pas communiquer dans les boîtes. Voilà.
Donc, fundraiser à vos.
Oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Parce que j'étais à une réunion il y a quelque temps, l'Institut de l'Estuaire. Alors, ça n'a rien à voir avec les parcs encore que l'Institut de l'Estuaire à Nantes. Mais la personne me faisait allusion à une école territoriale qui se développait dans le cadre du parc régional de Vannes. Je trouve que c'était une idée assez intéressante. Je ne sais pas, à voir. J'en sais pas plus, mais je me rappelle plus le nom du parc. Enfin, c'est Vannes, c'est la région.
C'est le golfe du Morbihan.
Voilà, c'est ça, le nom exact, mais vous l'avez. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Sinon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous quittiez pour laisser la place aux autres, mais merci en tous les cas. Vous restez dans la salle, bien évidemment, et vous participez au débat général. Et donc, je vais demander maintenant à Charlotte Sauvion et à Yvonique Guinard. Là, on va aller de la ruralité à l'urbain, même si Poitiers n'est pas une métropole, bien évidemment, mais et de poser la question aussi donc de la nature dans la ville. Et d'ailleurs, juste une question, vous y répondrez après. Est-ce qu'il y a des brebis qui sont envisagées ?
Non.
Pas pour l'instant. Bon.
Pour la ville de Poitiers, non. Pour d'autres communes de Grand Poitiers 13, il y en a quelques-unes. Et Grand Poitiers 40, je n'ai pas fait le tour encore. Donc bonjour, Yvonne Guinard, je travaille à Grand Poitiers. L'intitulé exact, c'est éco-conseiller. En fait, je m'occupe, je dirige le centre d'activité milieu naturel. Donc je m'occupe des questions de milieu naturel ou semi-naturel et de biodiversité.
Et Charlotte Sauvion, moi je suis paysagiste et je travaille à la ville de Poitiers au service espace vert.
Donc on va faire une présentation à deux voix avec des focales différentes entre Grand Poitiers 13, certains trucs qui sont valables à Grand Poitiers 40, ouais. Mais sont garantis du présentateur. Et puis donc des zooms aussi sur la ville de Poitiers. On a centré la présentation sur le projet Tison, qui est assez emblématique de différentes choses dont on va vous parler. Donc une ville verte, une ville riveraine, puisque on s'est centré sur Poitiers, traversé par le Clain, un territoire qui se veut intense, qui vise une certaine intensité urbaine. Qui est en recherche d'une attractivité supérieure et qui vise à maintenir une certaine solidarité sur son territoire. Donc les quelques ingrédients de cette recette qu'on a identifiés, donc c'est une politique locale au long cours, une anticipation des évolutions législatives autant que faire se peut, la définition d'une stratégie urbaine qui intègre les différentes composantes de la vie sur le territoire. D'essayer de préparer le territoire de demain, de faire preuve d'imagination le plus possible, de préserver les atouts du territoire qui sont identifiés et de fédérer autour de réalisations exemplaires. Donc en termes de politique locale au long cours, j'ai pris l'exemple de la charte districtale de l'environnement qui date de 1994, qui ne nous rajeunit pas forcément, qui était centrée déjà sur un certain nombre d'enjeux, et notamment les enjeux liés à l'eau. C'est une thématique qui est à nouveau très à la mode avec les différentes évolutions législatives. Je pense à la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dont vous avez peut-être entendu parler, qui remet le grand cycle de l'eau un peu au cœur des préoccupations, ou qui souhaite la mettre au cœur des préoccupations des collectivités. Cette charte districtale, elle a été à l'origine de différents outils, notamment le parc naturel urbain dont on va vous parler un tout petit peu après. Les éco-gardes, qui est un peu pour moi comme le sparadrap du capitaine Haddock, puisque les éco-gardes ont été rebaptisés agents des milieux naturels. Mais agents des milieux naturels, personne ne connaît, tout le monde connaît les éco-gardes. C'est le plaisir de changer de nom. Et donc la préservation des milieux aquatiques, comme je vous le disais, l'importance de la rivière et d'essayer de retisser le lien entre la ville et la rivière. En termes d'évolution, enfin de prise en compte autant que possible des éventuelles évolutions réglementaires, je prendrai juste l'exemple de la trame verte et bleue. Donc c'est un cadre réglementaire qui tend à favoriser autant que possible la nature en ville et la biodiversité de proximité, de favoriser les cœurs de biodiversité et les continuités écologiques. Donc vous avez à l'écran les différentes cartes qui peuvent être présente dans ces documents-là. Donc l'exemple du Poitou-Charentes, parce que là on va fusionner les trois SRCE prochainement. Et un extrait d'une des planches qui concerne l'ouest de Poitiers, où on voit qu'on est à proximité d'un grand centre urbain, mais on a à ses portes et qui viennent pénétrer ce tissu urbain un certain nombre d'éléments identifiés comme naturels ou semi-naturels. Alors c'est une prise en compte qui a été assez facilité sur le territoire de Grand Poitiers, notamment parce que dès 1994 et la charte districtale de l'environnement, on s'était posé la question des milieux naturels, des continuités entre ces milieux naturels, et que cet outil, donc un réseau de sites, le parc naturel urbain, alors c'est un nom inventé pour la cause, c'est un nom qu'on peut retrouver en quelques endroits de France qui recouvre des réalités très différentes. Il y a peut-être une dizaine de villes en France qui ont des parcs naturels urbains. Alors soit c'est un très grand site, soit c'est quelques sites qui ne sont pas forcément en lien, ou des sites un peu divers, hétérogènes, en lien comme à Grand Poitiers. Et c'est aussi l'architecture de base du plan local d'urbanisme. Donc ça nous a permis d'amortir le choc sans trop de difficultés, d'avoir à prendre en compte les continuités écologiques. En termes de stratégie urbaine intégrée, juste un petit rappel des différents documents à travers lesquels la collectivité tient compte de son environnement. Donc outre le programme d'aménagement et de développement durable, qui est un peu la charte des valeurs fondamentales entre guillemets, qui se traduit par un document qui est le plan local d'urbanisme intercommunal, qui apporte des réponses circonstanciées et territorialisées, notamment en termes de zonage, et pour traduire ces valeurs fondamentales et ce zonage sur le territoire, il y a un certain nombre d'actions qui sont initiées en matière de cadre de vie, spécifiquement de biodiversité. C'est une particularité sur Grand Poitiers, issue notamment de ce document, la charte districtale de l'environnement, de se soucier plus particulièrement des questions de biodiversité, la notion de l'eau extrêmement présente, et toutes les questions de mobilité. Et l'idée, c'est d'essayer d'allier ces différentes actions dans des démarches pour mutualiser les différentes compétences qui existent sur le territoire, par des échanges d'expériences, tenter de générer des économies d'échelle, voilà, ce genre de choses. Donc c'est une stratégie du territoire. C'est une stratégie qui vise à essayer de développer une agglomération intense, donc une intensité urbaine au sens de limitation de l'étalement urbain et d'intensité aussi de vie sur le territoire. Donc juste pour rappeler quelques étapes, et notamment tout ce qui concerne la mise en œuvre de projets structurants, à visée démonstrative un petit peu, et l'adoption d'une gouvernance partenariale, c'est-à-dire d'essayer d'associer un maximum de monde, déjà en interne, parce que le Grand Poitiers, c'est une assez grande maison avec pas mal de services et de chapelles, donc c'est d'essayer d'avoir le plus de monde possible autour de la table, et aussi des gens qui ne sont pas de la maison, ça apporte du sang neuf, c'est très bien. Un tout petit zoom sur le parc naturel urbain, donc je vous en ai un petit peu parlé. Si ça se lit un peu mieux là qu'à l'écran, c'est bien. Donc actuellement, on est à environ 350 hectares d'espace naturel. On en a 250 qui sont des propriétés publiques, des communes ou de l'agglomération. On en a une centaine d'hectares qui sont dans des périmètres d'intervention du Conservatoire d'espace naturel, où on a un partenariat souvent à trois pieds entre la commune, l'aglo et le conservatoire. On en a parlé pour Montamisé, ça existe sur d'autres endroits. Et c'est peut-être appelé à se développer maintenant qu'on est 40 autour de la table. Donc les quelques objectifs qui sont assignés au parc naturel urbain. Et on voit que ce n'est pas uniquement du paysage ou de la biodiversité, c'est aussi notamment tout ce qui est promotion de la gestion différenciée des espaces publics au sens d'un démonstrateur d'un entretien moins intensif ou moins intense des espaces verts ou des espaces publics. Et de voir que subitement, c'est pas parce que on les désherbe plus, par exemple, que immédiatement il y a des bêtes sauvages qui arrivent. Donc ça contribue à la sensibilisation du public. Et c'est aussi essayer de favoriser autant que possible les circulations en mode doux dans des sites de ce type-là. Et on va faire le lien donc avec Tison par cette diapo, donc qui vous présente un certain nombre de sites. Qui font partie du parc naturel urbain de Grand Poitiers. On a des sites qui sont en devenir, comme le Moulin Apparent, où c'est un site qui va faire l'objet de réflexions et de travaux dans les années à venir. Des sites qui sont déjà depuis plus longtemps dans le réseau, et un autre site en devenir dont on va vous parler plus précisément, le site de Tison.
Et c'est pour dire aussi, pour montrer qu'on arrive quand même à faire des projets. Ça peut quand même aboutir, ces grosses machines où il y a des empilements de réglementations, tout un tas très très large d'interventions, de vraiment beaucoup beaucoup d'intervenants. On arrive sur le terrain à faire des projets qui ont une vie et qui continuent à évoluer. Donc c'est vrai que la demande à l'origine de l'espace Mendès France, c'était de nous parler de Tison, parce que c'est un projet qui va bientôt émerger réellement sur le terrain et qui donc commence à faire parler de lui. L'idée, c'est quand même ce projet, d'abord, c'est un projet. L'idée, c'était d'en faire un projet intégrateur, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une commande politique. On nous dit, on va acheter un terrain, il faut nous en faire un parc. L'idée ici et la liberté qui nous a été donnée, c'était de croiser beaucoup de champs. Donc c'est ce que vous avez un petit peu à l'image. Hein. C'était comment on parle d'histoire, de mobilité, d'énergie. Enfin, on a ajouté tout ça au fur et à mesure. Parce qu'à l'origine, c'était ça. On fait un parc au bord de l'eau. Mais on nous a donné l'occasion d'en faire un peu plus. Donc on a... C'est un parc qui est en réflexion depuis très 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 longtemps dans l'esprit des élus, mais qui, d'un point de vue opérationnel, a commencé il y a 2 ans. Voilà. Alors, déjà pour le situer, donc on l'a vu dans l'image, pas précédente, mais celle d'avant simplement, c'est qu'il se situe parmi d'autres projets. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu le plus important. En termes de surface, hein, c'est à peu près 1,8 hectare. Mais ce qu'il faut dire, et pour nous c'est très très important, c'est qu'il est dans ce réseau de parcs en archipel. On les a appelés comme ça parce que voilà, ça faisait joli. L'idée, c'est de faire du lien aussi entre ces parcs et entre le contenu de ces parcs également. Donc la particularité de celui-ci, c'est qu'il se situe très très proche du centre-ville. Donc... Au fond de la vallée, donc c'est une île, donc ce caractère insulaire nous apparaissait aussi important dans la définition du programme de l'aménagement, mais c'est aussi un endroit enclavé, qu'il fallait désenclaver, mais pas n'importe comment.
Donc l'idée, c'était de faire un lien, de pouvoir traverser la rivière pour récupérer des quartiers pour lesquels on prend sa voiture pour aller au centre-ville ou le bus, etc. L'idée, c'était aussi à pied, en vélo, comment on peut faire. Et se raccorder également sur des promenades urbaines et périurbaines qui, à l'échelle de Grand Poitiers, existent déjà. Alors, l'idée première, c'est d'en faire un lieu de détente dans une ville intense. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire ce site un lieu où pour les gens. Ce n'est pas un espace naturel dans le sens où c'est un espace exclu et préservé, sanctuarisé, etc. C'est vraiment l'idée d'en faire un lieu où les gens puissent venir, puissent avoir des activités, mais sans une définition aujourd'hui précise de ce qu'ils pourront y faire. L'idée, c'est de venir au bord de l'eau, de pique-niquer, etc. L'idée, c'est que ce parc aussi évolue dans le temps en fonction des usages qui se mettront en place. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'aire de jeu, on ne va pas faire on va pas mettre pléthore de mobilier, etc. Mais c'est plutôt laisser vivre aussi. L'idée, c'est de laisser vivre ce site et voir comment il évolue. Alors, il y a l'histoire de la biodiversité quand même dans ce site, parce qu'on est au bord de la rivière, on est dans une ancienne friche, donc on a fait quand même, on s'est dit, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui, donc on a fait faire un diagnostic faune-flore sur le site. L'idée, c'est d'améliorer cette biodiversité, on va dire plutôt ordinaire, hein, c'est pas non plus, on cherche pas à avoir des choses extraordinaires. Et ce projet a vraiment intéressé l'Europe et la région à ce titre-là. Et pour ça, on a des aides du FEDER et donc de l'Europe sur ce volet biodiversité pour accompagner le projet. Donc on vous l'exposera tout à l'heure un petit peu sur les parties de l'aménagement qui sont plus en lien avec cet objectif-là. Peut-être que tu veux en parler là.
Juste pour préciser, donc il y a une ancienne scierie qui avant ça était un moulin, et donc on a un seuil en rivière, une chaussée de moulin qui est fonctionnelle, qui est le point noir d'ailleurs en termes de continuité écologique sur le territoire de Grand Poitiers. C'est le plus gros seuil, il fait plus d'un mètre de haut, c'est parce qu'il y a plutôt des petits seuils sur le Clain, puisque c'est pas un cours d'eau avec un gros débit. Hein. Donc c'est malgré tout le plus gros seuil sur la traversée de Poitiers. Donc comme certains en ont peut-être déjà entendu parler, il y a des obligations qui sont faites aux propriétaires d'ouvrages hydrauliques, on dit, pour les seuils, les chaussées, voilà, de se mettre en conformité avec la réglementation concernant la continuité écologique. Et les deux indicateurs qui sont utilisés pour évaluer la compatibilité de votre ouvrage avec la continuité écologique, c'est d'une part la remontaison des poissons et le transit sédimentaire, c'est-à-dire la libre circulation des sédiments. Ce dont on entend souvent parler, c'est l'opposition assez farouche entre, d'un côté du spectre, l'idée du retour à une rivière naturelle, entièrement naturelle, sans que la main de l'homme y ait mis les pieds, et à l'autre opposé, c'est un flux d'énergie que l'homme a exploité de tout temps, en tout cas dès qu'il a été foutu d'y mettre deux cailloux pour essayer d'y piéger des poissons. Et donc entre ces deux extrémités du spectre, où se place-t-on lorsqu'on est le repropriétaire d'un ouvrage de ce type-là? Donc le pari que fait la ville de Poitiers et l'agglo de Grand Poitiers, c'est d'essayer de faire un site qui soit un peu un démonstrateur de la conciliation possible entre ces deux enjeux-là, en essayant de faire tout ce qu'il est possible de faire en termes de restauration de la continuité écologique en produisant de l'hydroélectricité. Donc c'est la volonté de la collectivité d'essayer d'en faire un démonstrateur à la fois de la loi biodiversité et de la loi transition énergétique. Donc c'est une des particularités du site.
Donc le projet en lui-même... Donc, si vous connaissez un petit peu Poitiers, donc vous avez, on est au sud du plateau, avec le parc de Blossac. Tu veux pointer. Alors comment j'appuie sur le. Alors le parc de Blossac se situe là dessous, Rivaux ici. Pour ceux qui connaissent la tomate blanche, boîte de nuit, Le petit coin, l'île Jouteau, à cet endroit-là, qui est ouvert l'été, qui est déjà appartient à la ville de Poitiers, fonctionne bien. En face, on a la promenade des cours. Il y a le dos de d'Yvonne.
Non, c'est bon.
Là, voilà, avec une liaison sur ce qu'on appelle le petit coin en bord de l'eau. Donc voilà, le projet, c'est ce fond de vallée. Donc l'idée toute simple. Alors on a lancé un concours il y a 2 ans maintenant. Concours architecte, paysagiste, hydraulicien, VRD, voirie, réseau divers, et puis je ne sais plus tout ce qu'il y avait comme... oui, aussi. Ouais. Donc on a lancé un appel à candidature. On a eu une cinquantaine de propositions. On a retenu trois groupements sous forme de concours. Donc c'est l'équipe... de paysagistes mandataires. Donc quand on dit paysagiste mandataire, c'est en gros c'est le chef d'équipe, hein. Ce sont des paysagistes, donc in situ, c'est un groupement lyonnais. Fechtinger pour la passerelle, qui est un pape de des passerelles. On est très contents qu'ils aient osé répondre sur un tout petit ouvrage comme ça. Ils ont fait par exemple tout le grand accès au Mont-Saint-Michel, si vous voyez, dans cette grande opération. La passerelle Simone de Beauvoir à Paris. Donc on est très contents que notre petit projet les ait intéressés. Et ils nous ont proposé vraiment un très joli projet, très sobre et très bien intégré dans le site. Donc leur idée, c'est d'en faire une grande prairie très ouverte, étant donné que le programme, c'était d'avoir un grand espace des possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'avait pas défini exactement un programme extrêmement précis. Une réhabilitation de la scierie en un grand préau, je vais vous montrer des images. Donc une passerelle qui permet de raccorder les deux rives avec des particularités que je vous expliquerai. Et un retravail complet des berges, qui aujourd'hui sont des berges extrêmement abruptes et qui ne sont pas du tout favorables à la diversité, etc. Et c'est sur l'aménagement de ces berges qu'il y a un gros travail de fait sur... une future biodiversité, en tout cas on l'espère. Donc voici quelques images. Donc c'est un lieu pour nous de loisirs, c'est un nouveau paysage mais qui respecte le paysage du site. Et d'un point de vue de l'urbanisme, on vous parlait de la ville intense tout à l'heure, c'est vrai que ce que l'on souhaite, c'est que ce site soit approprié par les Poitevins et même au-delà, bien plus largement. D'où aussi cette proposition de faire un grand parvis sur lequel est cette scierie redessinée en un préau où on pourrait imaginer des festivités et des choses comme ça. Alors la passerelle, donc c'est une petite passerelle qui fait à peu près 40 mètres de long, qui a la particularité d'être flottante. Donc c'est ce qu'on voit au milieu là, c'est une passerelle qui bouge en fonction du niveau des crues, parce qu'effectivement, on est dans un site inondable. Donc, c'est un des impératifs aussi, c'est que cet ouvrage ne soit pas un obstacle. Donc, les trois concepteurs nous avaient proposé des passerelles flottantes, sachant que c'est le système qui a le moins d'impact sur les rives et sur le lit de la rivière, mais également sur les rives. La particularité de leur proposition, c'est que c'est une passerelle qui a un stabilisateur central qui sert de banc. Donc, tout d'un coup, c'est vraiment agréable parce qu'on peut s'asseoir au-dessus de la rivière pour admirer la rivière. Sur les berges, donc, c'est tout un travail de remodelage des berges, d'accessibilité ponctuelle de ces berges, et surtout un énorme travail de confortement de ces berges uniquement en génie végétal, en fait en technique uniquement végétale pour conforter les berges.
Juste un petit point sur l'hydroélectricité. Donc on a la scierie dans son état actuel, et puis le dessin du dessous, le préau que Charlotte a évoqué. On voit que subsiste toujours cette partie-là. Cette partie-là, c'est la partie hydroélectricité qui existe sur le site. Les turbines sont encore en place. à l'époque où c'était moins cher de se raccorder au réseau que de produire de l'électricité sur place, ben, ils ont arrêté de produire de l'électricité. Mais, alors, les générateurs ne sont plus là, mais les turbines sont toujours en place. Tout le génie civil est en état. Donc c'est ce qui a un peu fait naître l'idée de pourquoi pas tenter de relancer le truc. Donc on est dans la logique de la loi de transition énergétique avec une production décentralisée de l'énergie. Donc on est plutôt sur du réemploi des turbines Francis qui sont existantes. Je dis plutôt parce qu'on envisage donc une exploitation de la partie hydroélectricité par un porteur de projet. Il y a un appel à projet en cours. S'il y en a qui veulent se lancer dans l'hydroélectricité à Poitiers, il y a un appel à projet sur le site de Poitiers et de Grand Poitiers. L'objectif, donc, c'est donc il y a donc l'installation, la réinstallation de deux générateurs, la production d'électricité. Les objectifs de la collectivité, c'est, comme je vous le disais, d'en faire un démonstrateur. Donc il y a un objectif pédagogique pour essayer de voir si ces différents enjeux autour de la rivière sont conciliables. Y compris l'enjeu loisirs et fréquentation, parce qu'on a des exigences notamment sur le bruit et la sécurité de l'environnement proche des équipements. On ne veut pas se retrouver avec un truc qui fait un potin du diable, notamment pour les riverains. Donc l'objectif de restauration de la continuité écologique, et on est également sur une partie en financement participatif. Oui, c'est moi qui continue d'ailleurs. Donc pour agrandir un petit peu, enfin dézoomer un petit peu sur le projet, l'objectif c'est d'essayer de mettre en valeur donc les atouts de l'environnement sur Poitiers, du cadre de vie de Poitiers, d'en faire des éléments de l'attractivité de ce territoire. Alors dans les éléments qui viennent naturellement à l'esprit, il y a donc tout ce qui relève du giron de Charlotte, à savoir tout ce qui est parc, jardin et square, notamment sur la ville de Poitiers. Alors c'est pas que ça, de mon point de vue en tout cas. C'est aussi un certain nombre de paysages qui ne seront pas forcément des paysages urbains, alors qu'on est parfaitement à la porte de la ville. C'est des points de vue également. C'est notamment des ambiances en bordure de rivière. C'est pas forcément ce qu'on met en premier sur les dépliants de la collectivité, mais ça peut tout à fait être ça. Et c'est aussi des mobilités, des modes de mobilité, des modes de découverte du patrimoine et du paysage de la ville. Là, on est sur l'itinéraire Saint-Jacques qui traverse Poitiers du nord au sud et qui n'est pas pour l'instant plus promu que ça. En tout cas, la collectivité s'en est pas beaucoup saisie pour l'instant. Alors c'est pas juste une marotte de la ville de Poitiers ou de Grand Poitiers, ça reste assez subjectif hein, de se dire il y a des aménités, il y a un enjeu, on va réussir à attirer plein de monde. Alors il y a des gens qui bossent sur quel est l'intérêt d'avoir des espaces verts, des espaces de nature à proximité d'une ville, à proximité des zones habitées. Alors bon, je vous détaillerai pas tout ça, puis vous pourrez les trouver aussi facilement que nous on les a trouvés, mais il y a un certain nombre d'exercices pour essayer de quantifier ce que peut apporter le fait d'avoir de la nature en ville.
Là, c'est important parce que c'est vrai que c'est des champs qui sont un petit peu nouveaux, hein, où on commence à essayer de quantifier les choses pour démontrer que sur des choses aussi matérielles que d'avoir avoir un espace naturel à côté de chez soi, un espace vert, un bout de truc, etc., on s'aperçoit que du point de vue de la santé, du point de vue même par rapport au logement, on sait que tout d'un coup, on s'est aperçu que votre bien était bien plus cher s'il était à telle distance d'un espace vert que d'un autre, etc. Donc c'est des éléments qui commencent effectivement à émerger et à faire tilt aussi dans la tête de nos élus. Hein. Nous, on aime bien s'appuyer là-dessus pour défendre aussi nos champs de travaux.
Et donc pour conclure, donc les quelques conclusions auxquelles on arrive nous, Charlotte ou moi, en travaillant sur ces sujets-là, donc de faire de ces aménités environnementales un levier d'attractivité du territoire, ça nécessite donc d'affirmer l'identité du territoire. Là, on retombe un petit peu sur les mêmes objectifs que se fixent les PNR notamment. avec des notions de label, des notions d'image à promouvoir, de faire converger les différentes stratégies d'animation et de valorisation du patrimoine présent sur le territoire, en utilisant notamment des outils qu'on n'utilise pas forcément, notamment quand on est plutôt une ville. Ça vient assez naturellement à la campagne de s'occuper des chemins de randonnée. Ça vient un peu moins à l'esprit quand on est en ville. Mais voilà, on est traversé par un tas d'itinéraires de randonnée. Je parlais du chemin de Saint-Jacques, il y en a d'autres. Et donc, il y a des gens qui traversent le territoire. Autant essayer de promouvoir auprès de ces gens-là des ambiances, des paysages, des... Donc il y a les circuits des parcs et jardins qui vient aussi assez naturellement à l'esprit, et puis de communiquer sur la prise en compte des éléments de nature dans la ville. Ça nécessite aussi de renforcer les partenariats entre les acteurs publics et privés, puisque les seuls leviers ne sont pas dans les mains de la collectivité ou des collectivités. Il y a tout un tas de leviers qui sont dans les mains du privé, et il s'agit de les actionner tous à bon escient et dans le bon sens, et notamment pour préserver ces aménités, donc de ne pas tuer la poule aux œufs d'or, en quelque sorte. L'intérêt qu'il y ait quelques leviers qui soient dans les mains des collectivités, c'est notamment de maintenir une trajectoire dans le temps long, de manière à pouvoir initier des politiques qui visent à faire perdurer dans le temps les enjeux, les intérêts et ces aménités du territoire, pour essayer de faire perdurer la rente, la rente territoriale que ça peut apporter. Et voilà.
Et donc, merci beaucoup. Juste pour vous dire, sur Tison, je ne vous ai pas parlé de planning, mais a priori le chantier commence cet été, pour une livraison l'été prochain. Et actuellement, vous pouvez voir sur le site, on a un verger qui appartient à la collectivité juste à côté. Et il y a une exposition sur l'histoire du site, etc. Il y avait des guinguettes. Et donc, je vous invite à aller vous balader. Cette expo, elle est disponible tout l'été, sur place.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet ?
Oui. J'en ai plusieurs. Oui, bonjour. Henri Briat, je suis en projet pour une création de guinguettes. J'ai eu l'occasion de vous appeler, monsieur Guinard, il n'y a pas si longtemps. À l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait Tison, donc c'est un peu dommage. Vous parliez de festivité et d'attractivité, stratégie d'animation. Comment comptez-vous mettre en place cette stratégie ? Par qui et comment ?
Voilà. Alors, pour l'instant, c'est ce que je vous disais. L'idée, c'est d'en faire un. Aujourd'hui, on offre un lieu des possibles. Il n'y a pas aujourd'hui d'animation de prévue, sauf peut-être l'inauguration. Enfin, après, il faut aller voir, il faut écrire au maire, proposer des projets, etc. On sait que, par exemple, le propriétaire de la discothèque La Tomate Blanche a, lui, un projet pour faire un restaurant, etc., de quelque chose, une offre de jour. Il y a également la guinguette qui existe, qui se situe sur l'île Joutot, qui est propriété de la ville et qui est animée par une association, l'association Tremplin, qui fait vivre depuis 15 ans, peut-être bien maintenant. Hein. C'est un bon nombre d'années, qui ouvre tous les ans restaurants, midi, soir, et puis guinguettes, souvent le dimanche, etc. Donc avec des animations. On sait que nous, on a eu des contacts avec le club de canoë de Saint-Benoît, par exemple, qui est intéressé par venir tout d'un coup débarquer à Tison, c'est une bonne idée, etc. Donc pour l'instant, rien n'est complètement défini. L'idée, c'est d'offrir un lieu qui sera équipé. Et voilà, après, à charge aux citoyens de proposer des choses, aux associations de proposer des choses.
Un petit peu à cette réponse. Vous parliez de la tomate blanche qui a déjà Blossac.
Oui.
Donc, en termes de diversité...
Pour 3 ans.
D'accord.
C'est une concession.
En termes de diversité, je m'interroge. Parce qu'il va avoir une mainmise sur tout le territoire. Là,
alors, sur Blossac, je vous explique quand même en 2 secondes. Hein, parce que Blossac, en fait, le kiosque de Blossac, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit kiosque qui ouvre l'été. Donc, ça appartient à la ville de Poitiers. C'est un appel à candidature qui est renouvelé tous les 3 ans. Donc, il y a 2 ans, on a fait un appel à candidature. Il n'y a eu que 2 réponses. Un, c'était l'ancien gérant et voilà, ce monsieur-là. Donc, dans un cadre d'appel à candidature, plus il y a de candidats, plus la ville est contente.
D'accord. Okay. Merci.
Bien, si. Oui, Céline.
Juste une petite question par rapport au guide parc, jardin et square. On peut le récupérer sur votre site ou le télécharger?
Alors, il est visible sur le site de la ville et il est disponible à l'office de tourisme.
D'accord, merci.
De telle sorte qu'on puisse en avoir ici aussi, voilà. Parce que c'est ça le sens de la question.
C'est tout l'art de la communication.
Absolument. Mais juste pour la petite histoire, la sérendipité, qui est un terme qui nous plaît bien pour la créativité, il faut dire que j'ai rencontré M. Briat au Café de la Création qui se déroule justement à la Tomate Blanche, le premier jeudi de chaque mois. Et j'étais frappé, c'était le 200e projet qui était félicité jeudi dernier, en très peu de temps. Donc je me dis, là, il y a une richesse, peut-être que voilà, je livre mon idée, après, trouver des synergies possibles. Justement, domaine de synergie, on en parlait un peu tard, le collectif des fermes urbaines, parce qu'il y a un projet de ferme urbaine à La Rochelle, ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais ils sont intéressés aussi. Donc voilà, je pense que cette table ronde est enregistrée, on diffuse largement, chacun peut ensuite y venir y piocher des idées et des adresses. Voilà. Et je vais demander, on va pas vous rester là, puisque de toute façon, c'est une voisine qui va vous rejoindre, qui fait partie de l'agglo, je pense, Montamisé. Donc on est dans la continuité écologique, administrative, voilà, tout ce qu'on veut. Donc Marianne Bois-Grolier, qui est animatrice nature et qui va nous dire qu'est-ce qu'elle fait exactement sur Montamisé.
On en fait des choses. Marianne Bois-Grolier, moi je suis animatrice nature pour la mairie de Montamisé depuis janvier 2011. C'était pas du tout prévu à la base que la mairie embauche une animatrice nature. On m'a d'abord embauchée pour diriger l'accueil de loisirs. Puis, sortant d'une licence en médiation scientifique et éducation à l'environnement, j'ai voulu un petit peu faire valoir ma formation. Et donc, j'ai proposé au maire de l'époque, Christian Martineau, d'avoir un volet autour de l'éducation à l'environnement sur le territoire et de l'animation nature. Qu'il a accepté. Donc, depuis 2011, je m'efforce de sensibiliser les publics et de leur faire découvrir le territoire sur lequel ils habitent. Donc, voilà. Donc, Montamisé, c'est une petite commune à 8 km de Poitiers au nord. On vient de passer les 3500 habitants avec une superficie de 3275 hectares. C'est une commune qui est plutôt étendue, mais en fait, il y a surtout beaucoup de territoires agricoles qui sont cultivés. On est aussi basé sur un massif forestier. Il y a le domaine de la forêt de Moulières qui touche la commune, enfin qui fait partie de la commune, une partie. Et puis, il y a aussi beaucoup de domaines forestiers privés. Et on a aussi la partie des vallées sèches dans Soulès, dont monsieur parlait tout à l'heure avec les carrières, où là c'est un espace protégé avec des espèces végétales plutôt rares. Donc l'idée c'est que c'est une commune qui est quand même plutôt riche en patrimoine naturel. Et donc, même avant que j'arrive en tant qu'animatrice nature, la commune essayait de valoriser ce patrimoine pour le préserver un maximum. On le préserve comment ? Déjà par rapport à l'aménagement du territoire. On essaye de sensibiliser les publics au territoire qu'ils ont à côté d'eux, proche de chez eux. Et on essaye aussi de leur aménager des petits espaces privilégiés. Notamment, on a créé un jardin pédagogique près du groupe scolaire. En 2010, c'était un habitant qui revendait son jardin dans lequel il y avait déjà un potager, un verger et une friche. Donc parfait, voilà. Tout proche de l'école avec un accès sécurisé. Donc on en a profité pour en créer un jardin pédagogique. Et à mon arrivée, du coup, j'ai juste émis l'hypothèse qu'on pouvait aussi y mettre une mare pédagogique pour multiplier les milieux à étudier avec les enfants. Donc voilà, création d'un jardin pédagogique. On a aussi aménager un jardin d'essence dans le bourg. Alors, lui, je vais passer un petit peu vite dessus parce que pour l'instant, c'est un projet qui a un peu plus de mal à émerger. L'idée reste toujours là. Après, il faut toujours les moyens techniques et surtout le temps. Le temps pour s'en préoccuper parce qu'on a une équipe de techniciens qui n'est pas là uniquement pour faire ça. Donc, et que la commune est plutôt étendue. Donc c'est un projet qui reste pour l'instant dans le coin de nos têtes et qu'on s'efforce de mettre en place petit à petit. Mais on espère bien qu'il émergera un jour, correctement comme on l'entend. Et puis on a aussi créé des jardins familiaux avec une charte éco-responsable dans le bourg. Parce que alors Montamusé peut être considéré comme une commune plutôt rurale où la plupart des habitants ont une maison avec un jardin. Mais c'est pas le cas pour tout le monde et c'est vrai que là ça fait on a mis au début 5 parcelles de jardin, on a doublé en 2 ans parce qu'on avait de la demande. Donc aujourd'hui il y a quand même des personnes qui sont volontaires pour cultiver un petit bout de terre et avoir un petit bout de nature près de chez eux. Voilà. Après la commune s'efforce aussi de mettre en place des actions dites exemplaires, avec des guillemets, hein, parce que c'est... certains pourraient qualifier ça juste de normal, d'autres d'exemplaires. Chacun voit ça comme il l'entend. Ça passe aussi tout d'abord par la gestion différenciée des espaces verts. Depuis 2011, il n'y a plus aucun pesticide qui est utilisé pour les espaces verts. Ça passe aussi par les plantations de haies champêtres pour valoriser la trame verte. On en parlait tout à l'heure avec Yvonique. Donc là, enfin, très récemment d'ailleurs, au mois de janvier dernier, on a planté une haie de plus de 500 mètres de long qui regroupe deux circuits de randonnée, donc qui prolonge encore plus le territoire. La participation au concours départemental du fleurissement en suivant toujours les conseils du jury pour s'améliorer de jour en jour. Une incitation aussi au fleurissement des pieds de mur des habitants. Ça fait 3 campagnes successives là que nous faisons, où on propose aux habitants des petits sachets de graines. Et enfin, ils viennent les chercher en mairie pour les volontaires, pour qu'ils puissent fleurir leurs pieds de mur du côté du trottoir. Et on les sensibilise par la même occasion au désherbage. Parfois intensif des trottoirs, alors que c'est pas forcément nécessaire et que ça peut apporter de la couleur. Et que c'est surtout interdit. Donc on essaye de leur montrer qu'on peut fleurir les pieds de mur avec des graines en l'occurrence, mais on peut aussi profiter de la plante sauvage de rue qui vient naturellement et qui peut aussi avoir sa place sur nos trottoirs. Et on organise aussi de temps en temps des journées de ramassage de déchets parce que Montamusé a beau être un petit îlot de verdure proche de Poitiers, on est aussi sujet aux problèmes de décharges sauvages. Et donc, donc on essaye de faire participer les habitants pour les sensibiliser justement à ne pas faire ce genre de choses. Et puis le plus gros de mon travail à moi, c'est la sensibilisation des publics. Donc depuis 2011, je m'efforce de sensibiliser essentiellement d'abord les scolaires. Donc j'interviens dans les 16 classes du groupe scolaire de Montamusé, ça va de la petite section au CM2. Ça représente pour cette année à peu près 400 élèves. Comment ça se passe? En fait, chaque début d'année scolaire, donc en septembre, je propose un volet de thématiques aux enseignants. C'est l'enseignant ou le groupe d'enseignants, parce que des fois, c'est des projets, ce sont des projets communs, qui choisissent la thématique environnementale, le site sur lequel ils veulent travailler, et on met en place des projets de classe sur ce sujet-là. L'idée, c'est pas du tout que je me substitue au rôle de l'enseignant, à la fois sur son programme de découverte du monde ou de science ou je ne sais quoi. L'idée, c'est vraiment de monter quelque chose en commun et de sensibiliser les élèves à la richesse des écosystèmes pour qu'ils aient envie de les préserver. Et voilà. Donc, mon rôle au sein des classes, c'est surtout d'apporter l'aspect ludique de la découverte. On va, alors comme sur l'image, là, on va pêcher à la mare et voir ce qui s'y passe. On va chercher les petites bêtes dans le jardin pour les observer. Et bien sûr, on les relâche après parce qu'elles ne sont pas à nous. Elles ont le droit de vivre dans leur petite friche. En fait, moi, je cherche surtout l'émerveillement chez les enfants. Ils ont cette naïveté-là qu'il faut utiliser. Donc voilà. Et puis, en règle générale, qui dit sortie scolaire dit parents accompagnateurs. Donc, on sensibilise aussi les parents à ce niveau-là. Et puis, on utilise tous les espaces naturels qui sont à proximité pour les explorations de terrain. Donc, le jardin pédagogique, avec sa mare, sa friche, son verger, son potager. Pour tout ce qui est domaine forestier, alors en domaine public proche de l'école, c'est pas simple parce qu'il faudrait aller plutôt du côté de la forêt de Moulière et ça demande un déplacement en bus pour les scolaires, donc c'est pas toujours prévu dans les budgets. Du coup, je suis amenée à faire appel aux particuliers de la commune pour leur demander si on peut pas accéder à leur parcelle le temps d'une animation. En règle générale, ça pose pas de problème si on fait ça dans les règles de l'art. Si on n'intervient pas sur leur terrain sans les prévenir, ça ne pose pas de problème. Donc l'animation auprès des scolaires et puis l'animation auprès du grand public, où là on essaye d'organiser, alors c'est plutôt tous les deux ans, une journée thématique ouverte à tous, où là on fait une communication beaucoup plus large que sur le simple territoire de Montamisé. Donc là, on a organisé en 2013 la journée de la chouette, en 2015 la fête du végétal et en 2017 la journée de l'air. Donc vous voyez, les thématiques sont plutôt portées autour de l'environnement au sens large et du développement durable plus que la nature elle-même, ça dépend. Sur ces journées thématiques, on arrive à toucher quand même un public beaucoup plus familial et on essaye d'avoir une approche pas forcément ludique comme je peux l'avoir sur mes interventions scolaires où là on propose à la fois des conférences pour les adultes, des ateliers d'initiation, après on met en place quand même des petits ateliers pour les enfants parce que... Pour faire venir du monde à Montamisé, pour faire bouger la population montamiséenne, il faut que les enfants soient concernés, sinon c'est difficile de faire venir les adultes. Mais bon, on essaye du coup de sur ces journées-là d'atteindre un public plus large et de sensibiliser de manière différente. Et puis, ça passe aussi par des créations d'expositions et d'organisations, notamment à la médiathèque de Montamisé, qui a ouvert ses portes il y a pas très très longtemps, et qui sort une programmation d'expositions et de conférences sur lesquelles j'essaye de travailler. Alors, c'est pas forcément que moi qui fais les expositions, parce que l'idée, c'est pas de bourrer le crâne des montamiséens sur la préservation de la biodiversité. Voilà, donc les sujets varient, mais l'idée, c'est que je crée des expositions de temps en temps pour la médiathèque. Comme par exemple, j'avais fait une expo sur les petites bêtes du jardin, sur la gestion forestière, enfin, voilà. Et puis, depuis 2015, on a mis en place... un label, alors le mot est peut-être un peu fort, qu'on a appelé Curieux de Nature. L'idée, c'est de sensibiliser les habitants de manière mensuelle sur une thématique autour de l'environnement, soit par une petite communication qu'on distribue dans les boîtes aux lettres, un petit guide pratique, par exemple, de la saisonnalité au jardin ou comment faire son jardin sans pesticides, ou enfin voilà, des petites thématiques comme ça, ou par des animations plutôt familiales là encore avec des sujets divers et variés. La prochaine au mois de juin sera une animation familiale au jardin où on va faire des petites plantations parents-enfants. Ça peut être aussi au mois de février dernier, on a créé des costumes de carnaval avec que des déchets de récupération, enfin des déchets. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter un petit côté créatif pour sensibiliser les publics. Et donc ce label Curieux de Nature, ça y est, les Montamiséens ils sont habitués. Ils l'attendent dans leur boîte aux lettres tous les mois pour certains. D'autres s'en préoccupent pas beaucoup, mais c'est pas très grave. On sait que ça prend du temps et que peut-être que le jour où ils trouveront un tract qui les intéressera, après, ils s'y intéresseront un peu plus. Pareil pour les animations. On a commencé avec des conférences où on avait 2-3 personnes. Donc on ne s'est pas découragé parce que l'idée c'est que on se dit que les 2-3 personnes qui sont là c'est qu'elles sont intéressées et que peut-être que le bouche à oreille fonctionnera et pour l'instant on s'aperçoit que c'est ce qui se passe quand même, les activités prennent de plus en plus d'ampleur. Moi j'ai commencé à intervenir dans une classe dans le groupe scolaire, aujourd'hui les 16 me réclament et je suis obligée de restreindre un peu les projets de classe pour avoir du temps pour tout le monde. Donc c'est un travail de longue haleine, mais je pense pas en vain, parce que même si les gens ne semblent pas captivés par ce qu'on fait, en se promenant, ils peuvent avoir un petit flash. Hein. « Oh ouais, qu'est-ce qu'elle a dit la dernière fois sur les petites plantes sauvages là, qu'on trouve dans les champs ?»« Oh oui, ah bah regarde, là, il y a des déchets, c'est peut-être pas très bien, on pourrait peut-être les ramasser. » Voilà, c'est des petites brides comme ça que je lâche dans la nature. Et après, au bon vouloir des Montamiséens de les attraper et de les utiliser. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage dans une commune périurbaine, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, c'est à peu près ça.
Bien, on va passer à la photographie, à moins qu'il y ait des questions. Vous restez, il y a une place, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs? Oui. Oui. Ok, d'accord. En tous les cas, merci pour la présentation et bon courage pour la suite, surtout. Mais vous êtes jeune, comme vous l'avez dit, donc voilà, l'avenir vous appartient. Donc, vous allez vous présenter, Thomas, et nous dire... et donc là, c'est un autre regard, on a vu, le conte, la photographie, la musique, voilà. C'est ce que nous appelons les regards croisés.
C'est impressionnant de se retrouver de l'autre côté. C'est un peu une première pour moi, donc... Donc le sujet un peu de mon intervention, j'ai essayé de ramener ça aussi à ma propre expérience. Donc c'est autour de la question de la friche industrielle comme espace de création et d'inspiration. Donc je vais partir du très général et revenir un peu sur le projet qui m'occupe en ce moment, qui est un projet photographique autour de la réhabilitation de l'îlot de Tison. Donc pour commencer, définir en 2-3 phrases ce qu'est une friche industrielle. Donc c'est un ancien espace de production industrielle où l'activité a complètement cessé depuis un temps plus ou moins important et qui est complètement laissé plus ou moins à l'abandon. Voilà pour la définition d'une friche. Après, pour faire une définition rapide, on peut dire que les friches, en fait, c'est des espaces qui intéressent les artistes, qui sont des espaces en dehors d'un cadre. Les artistes vont souvent se l'approprier. Il y a notamment un espace propice au graffiti, mais pas que. Il y a de nombreux exemples en France ou un peu ailleurs dans le monde d'une transformation de friche industrielle en friche culturelle. On a plusieurs exemples sur Poitiers. On a le Confort Moderne qui est un lieu historique comme ça. Donc, beaucoup de personnes à Poitiers ne savent pas que le Confort Moderne a été une époque une fonderie puis un magasin d'électroménager. Il y a quelques années, il y a Zooprod qui ont été déménagés aussi dans une ancienne friche industrielle, mais là c'était plutôt de la transformation de viande. Voilà. Donc pour en venir à mon travail, je suis donc photographe essentiellement, photographe, peintre et réalisateur comme je le mets sur ma carte. Et donc, mon travail est d'abord principalement centré sur la question de l'espace urbain. Je travaille beaucoup sur la ville. Et ce qui m'a intéressé dans la friche de Tison, bah, c'est que j'étais à côté et puis il y avait des choses. Le lieu m'intéressait. Il y avait quelque chose dans ce lieu qui est. Comment dire, il y a un esprit du lieu qui est là et qui m'inspirait. Et puis, je m'étais dit que c'était important de réussir à témoigner de ce changement, de ce lieu-là, donc, qui était un lieu de loisir, qui a été un site de production industrielle et qui a été investi aussi, tout le temps de la friche a été investi aussi parce que j'ai découvert, là je vais parler au niveau du graffiti, il y avait un ancien vestiaire qui était utilisé par les militaires pour une piscine dans le Clain, et ce que j'ai découvert à l'intérieur, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc ça a été investi par au moins deux personnes en graffiti qui signaient les cartographes, et ce que vous allez voir, les photos là, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Voilà.
Ça n'existe
plus, ça y est. Oui, ça a été complètement rasé, donc j'ai été content de. Donc c'est-à-dire que des personnes, j'ai essayé de retrouver des traces, j'ai peut-être une piste du côté d'une ancienne élève des Beaux-Arts qui a bossé et qui travaillait beaucoup sur la question de la carte à une époque. Et donc l'intérieur de ce vestiaire a été complètement graffé sur le thème de la cartographie. C'est-à-dire que c'est des données, notamment il y a des cartes qui ont été retranscrites sur les murs, qui ont été prises du site du FMI. Donc ça remonte à une dizaine, l'activité remonte à une dizaine d'années. Donc on pouvait trouver ça, quelque chose comme ça. Bon, il y a une partie qui avait été recouverte par un autre graffeur qui est en activité sur Poitiers, son travail est moins intéressant. Il signe Zo partout et sans grande créativité. Des choses comme ça. Donc une retranscription des longitudes et latitudes. Voilà, voici un exemple de carte. Ou une autre carte. Ouais. Et donc ce projet est donc mené. D'abord en photographie, c'est un projet qui va lier photographie argentique et photographie numérique. Donc je travaille pour l'instant principalement en argentique, en liant le 24-36, donc format disons classique, au moyen format carré 6-6, noir et blanc et couleur. Donc ça c'est des photos du Moulin des Affaires, qui est un grand entrepôt sur la friche de Tison, qui était une sorte de bazar. Ça, c'est au moment de sa démolition, à la fin du printemps l'an dernier. Donc là aussi, qui a été un espace pour des graffeurs. Je connais une personne qui a fait du graffiti à l'époque. Donc voilà ce que peuvent donner des photos, un peu des travaux. Et donc ce bâtiment n'existe plus.
C'est On s'est longuement posé la question d'ailleurs dans le projet de le démolir ou pas, parce que comme on est en site inondable, toute sortie est définitive. Donc si on fait le choix de démolir un bâtiment, on n'a pas la possibilité de reconstruire, on perd les droits à construire. Donc avant de démolir quoi que ce soit, il y a eu de longues réflexions et discussions.
Mais il bouchait la vue sur la rivière.
là, cette fois, c'est à l'intérieur, et il y a des photos à l'intérieur et à l'extérieur de l'ancienne Syrie, dont l'activité s'est arrêtée, puisque je connais une personne dont le père a travaillé jusque lors de la dernière période de l'activité de l'usine, qui était de la fabrication de fenêtres. Donc l'activité se serait arrêtée apparemment en 1985. Donc les photos que je montre, c'est des documents de travail, c'est des photos un peu brutes, numérisées, il n'y a pas de travail de tirage derrière encore. Donc c'est un premier projet au long cours. Donc les photos, j'ai démarré il y a à peu près un an, lors du début de la démolition du moulin des affaires. Et depuis, je continue à intervalles réguliers d'aller faire des photos. Ce qui est intéressant de témoigner, j'étais pas le seul non plus à intervenir, puisque avant le début des travaux, il y a un groupe vidéo, une boîte de production sur Poitiers qui s'appelle Grenouille Production, et un des deux réalisateurs a tourné une vidéo avec une danseuse dans l'espace de l'ancienne Syrie. Donc là, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a un canoë, qui m'a permis d'aller faire des sessions photos depuis le Klein, puisqu'il y a des savoir que, mis à part quand le débit est pas trop fort et que la température de l'eau le permet pour faire des photos depuis l'eau, il y a éventuellement la possibilité de descendre sur une partie du seuil du moulin, puisque la profondeur est pas très importante. Mais pour d'autres points de vue, je me disais que un canoë, c'était quand même bien. Donc cette photo-là date de la fin du printemps l'an dernier, fin du printemps, début d'été, puisque la sortie avait été faite au mois de juin. Là, on est plus en plein été, donc avec des contrastes plus forts. Là, c'est une photo prise cet hiver, donc j'alterne sur des questions de détails et d'ensemble. Voilà, pour donner une idée du site aujourd'hui. En fait, tout l'espace qui est devant, là, la photo au fond, c'est la Syrie, l'ancienne Syrie, et tout l'espace devant, en fait, c'était l'espace occupé par le hangar du moulin des affaires. Donc prendre compte un peu de l'espace du site, puisque c'est un peu difficile de se rendre compte, et c'est un espace qui est pas facile à cerner aussi au niveau de la photographie, puisque c'est un espace qui est vaste, qui est assez boisé. Et même avec les points de vue dominants qu'on peut avoir depuis Blossac ou depuis Rivaux, qui sont les points de vue dominants, si on veut essayer de saisir tout le champ, en fait c'est au moins en deux ou trois photos. En fait. Et on en revient au début. Voilà, et donc pour faire un point aujourd'hui, j'en suis à entre 500 et 1000 photos prises, avec majoritairement de l'argentique, puisque je faisais je suis en train de faire un tableau d'archivage de toutes les photos prises pour pouvoir m'y retrouver une fois le travail terminé, pour pouvoir aller chercher. Sans trop me casser la tête, dire cette photo-là, oui, je m'en rappelle, mais elle est sur quel film, quelle photo je peux la mettre en rapport. Donc je suis arrivé là, j'ai commencé juste à rentrer une partie des photos noir et blanc et une partie des photos moyen format. Les photos moyen format, ça va un peu plus vite parce que par rouleau, on a 12 photos en format carré, donc ça c'est plus vite que sur une trentaine de photos à chaque fois en 24-36. Donc j'ai à 200 aux alentours des 200 photos sur le renseigné sur le comment ça être enregistré sur le tableau Excel, et à vue de nez, vu ce que j'ai déjà plus ou moins archivé, j'en ai au moins le double ou le triple encore à archiver, ça ça augmente au fur et à mesure. Donc c'était le bon moment encore pour se mettre à archiver. Voilà, et donc le projet est prévu donc, pour les dernières prises de vue et sont prévues pour l'été 2018, puisque l'inauguration du site pour l'instant est annoncée pour le printemps 2018. Donc c'est pour avoir un temps pour voir comment le lieu revit en tant que tel. Et ce qui est déjà intéressant de voir là au printemps, comment la végétation s'empare des espaces qui ont été libérés. Et donc voir à l'été 2018 comment le lieu a commencé à revivre, comment les Poitevins se l'approprient ou ne se sont pas encore appropriés. Et j'espère avoir, le but c'est une présentation publique du résultat final que j'aimerais commencer à présenter au public avec une inauguration dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Donc j'envisage ça un peu sur une exposition sur... réparti sur deux sites et demi, trois sites, donc c'est-à-dire éventuellement la maison de l'architecture pour une partie plus architecturale, quelques photos sur en extérieur sur le site de Tison, et les portes, puisqu'il y a une partie sur la mémoire ouvrière aussi, ce dont j'ai pas parlé, donc c'est retrouver les anciens ouvriers de la Syrie, réaliser des entretiens pour l'inventaire du patrimoine de la région. Et puis en profiter pour faire des portraits photographiques. Donc éventuellement les portraits au Mouton Noir, place Montière-Neuf. Mais le projet est un work in progress, comme on dit. Donc ça peut être amené encore à bouger d'ici un an et demi, en gros. Voilà.
Merci pour cette présentation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions plus générales ou des remarques ou des interventions? Oui.
Donc Jean-Philippe Minier, paysagiste. Il y a une forme de récit dans le travail que vous faites, de récit d'évolution sur ce site. Il y a un outil que l'on utilise au conservatoire qui est l'Observatoire photographique du paysage, qui est un protocole qui permet de faire des reconductions de vues anciennes. Je voulais savoir si vous aviez dans votre projet abordé cette question-là ou pas du tout. Ou est-ce que
on m'a transmis des documents sur la dernière mission photographique de la DATAR ou l'avant-dernière, je ne sais plus, qui date des années 80 ou 90. Donc sur la démarche qui est donnée. Du protocole de prise de vue. Après, j'essaie de retrouver les points de vue desquels j'ai pris les photos. Après, les documents photographiques sur Tison sont pas aux dernières nouvelles. Les retours que j'ai pu avoir au niveau des archives, c'est pas... En tout cas, au niveau des archives départementales, apparemment, ils ont plus des documents... écrit ou entre guillemets de loisirs touristiques, donc des cartes postales. Donc ce qui m'intéresse, donc pas vraiment sur la partie de la mémoire ouvrière. Donc je pense que ces documents-là, des photos de l'usine en activité, plus ou moins, je pense que c'est plus une matière que je vais peut-être réussir à collecter auprès des anciens ouvriers. Ce qui après, à savoir que l'usine a été installée, le passage de moulin à scierie a été fait au 19e siècle. Voilà, donc mais en tout cas, essayer d'avoir des documents photographiques, au moins essayer sur la dernière période d'activité, en tout cas, espérer te retrouver. Peut-être qu'en creusant de bouche à oreille, j'ai peut-être essayé de mettre la main sur d'autres documents, mais après, ça c'est l'avenir qui le dira, les rencontres. Voilà.
Bien, d'autres remarques? Sinon, écoutez, merci à tous, à toutes et à tous. Et puis, juste deux, trois points. Donc, parce que le ciel, la nature, les Grecs et les Latins l'avaient observé bien avant nous. Donc, si vous voulez faire du grec ancien, mais selon une méthode de langue vivante, vous avez dans le programme le 6 mai. Voilà, c'est une méthode assez exceptionnelle. Voilà, de bang linguistique tout de suite dans le grec ancien. Pas de grammaire, pas d'orthographe. Voilà, tout à fait. Deuxième chose, on a la chance d'avoir un directeur de foire exposition qui est passionné aussi par la philosophie, par les idées, Marc Alper. Donc le 24 mai, on aura une table ronde autour des formes philosophiques un peu différentes, pas les philosophies académiques. Et puis enfin, on continue nos rencontres par les territoires. Donc une des prochaines, ça sera à Foussignac, chez un viticulteur bio qui fait du cognac bio et qui fait une brasserie, qui a une brasserie aussi qui fait de la bière bio. Donc on aura une visite, c'est dans le programme, l'agenda de l'OMF. Et puis il y a aussi des visites à CDA Développement, entre autres, mais il n'y en a pas que, où on essaie de mettre en place une liaison culture-entreprise qui a déjà pas mal commencé, notamment autour de la photo et de la bande dessinée, mais on espère poursuivre avec la musique et la poésie, et la sculpture, enfin voilà. Mais n'hésitez pas à nous demander des renseignements, on est là pour vous répondre, voilà. En tous les cas, merci à vous, et puis bonne soirée, bon week-end Pascal, puisque c'est le cas, voilà, et à bientôt.